Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech, dirigé successivement par Serge de Bekech, assisté de Victoria, et par Daniel Amiche, assisté de Marie, du 10 mars 1999. Diffusé dimanche 28 décembre 2014 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Amis de la Résistance, bonsoir. On va commencer par lire le courrier, mais avant je vous dis qui vous aurez ce soir, comme ça si vous avez mieux à faire que de les écouter, vous pouvez éteindre tout de suite, aller vous promener, ou regarder la télévision même, voire même ouvrir un livre si vous en avez un. Et si vous n'avez pas encore fini de le colorier, comme disait, j'ai vu qui disait ça. J'ai très bien connu ce garçon, il a deux livres, il a presque fini de colorier le deuxième.
Donc, il a fini de colorier le premier.
Le premier, pardon, oui, c'est ça. Vous venez d'entendre notre excellent camarade François Guillaumat, que je salue. Il m'avait apporté un disque superbe hier que je voulais vous faire entendre et puis je l'ai oublié sottement. C'est bien celui que vous m'avez apporté ce soir ?
Oui, sûrement.
Je vous demanderai d'aller le chercher tout à l'heure et de le donner à Franck pour qu'on
mais
puisse...
Mais c'est vous qui l'avez ?
Oui, mais je l'ai laissé poser dans le studio, enfin le bureau. Vous voyez qu'on vous cache rien. Alors, donc je disais, André Figueras, qui vient nous parler de son livre du mois... Approchez-vous du micro, André.
Oui, bonjour.
Qui s'appelle « Aux environs de Petit Goulag ». C'est un joli titre, ça. Et le contenu du livre est quand même bon, c'est tout à fait intéressant, mais c'est moins guilloré que le
pas
titre
tout à fait, oui.
De Poël laissait penser. Et d'autre part, je recevrai ensuite Monsieur Trédaniel, qui est... Comment appelle-t-on ça ? Je vous l'ai dit tout à l'heure.
Éthiopathe.
Voilà, éthiopathe de lapin, bien entendu. Et qui vient de publier un livre intitulé « Histoire du rebootement ». Qui est très intéressant. Qui est un travail sérieux d'historien, d'essayiste et de...
L'histoire des rebooteux, là.
Oui, c'est ça. C'est ouais. L'histoire des rebooteux, mais de la préhistoire à nos jours. Ouais. J'ai dit que je donnerais la parole aux auditeurs qui ont écrit, je commencerai par, justement, puisqu'on parle de médecine, par un médecin qui écrit à propos des produits Belgianski, dont je parle souvent dans cette émission. Enfin, je ne parle pas tellement des produits, je parle de l'association de soutien au professeur Belgianski. Et il me dit, j'ai écouté avec intérêt votre émission, vous avez évoqué les produits Belgianski en affirmant leur utilité, déplorant l'incompréhension hostile de nos pouvoirs publics à l'égard de ces produits. Je ne connais rien de la composition, de la préparation et des indications thérapeutiques de ces produits qui, faute d'informations claires au public, rentrent dans la catégorie de remèdes secrets. Il ne faut pas encourager le secret, etc., etc. Alors, je voudrais dire à ce docteur que ce qu'il dit n'est pas conforme à la vérité. Ça rentre pas du tout dans la catégorie des remèdes secrets, puisqu'il suffit, c'est extrêmement simple, d'écrire à l'association qui tente d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché des produits Belgianski.
En France. Elle l'a déjà aux États-Unis.
Donc, qui tente d'obtenir cette autorisation en France, et il recevra, ce docteur, toute la documentation qu'il peut souhaiter. Je pense même d'ailleurs que s'il envoie un petit mot sur son papier en tête, comme il l'a fait pour cette lettre, il pourra, si j'ose cette plaisanterie, s'affranchir de la nécessité de mettre des timbres. Joli, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, André ? Ça vous plaît, cette formule ?
Ravissant.
Hein ? Il faut peut-être préciser l'adresse.
Alors, donc, si vous n'êtes pas médecin, vous envoyez un carnet de timbres à 3 francs, donc 10 timbres à 3 francs, ce qui fait 30 francs, et vous recevez une documentation importante avec des magazines, enfin un magazine et des choses tout à fait complètes sur les produits en question.
Vous en particulier des adresses de médecins.
Et des adresses de médecins, oui, aussi.
Par région.
Voilà. Et donc, cette adresse, c'est, sauf erreur de ma part, 16 chemin de Saint-James, 17550, Dolus, Doléron. Voilà. Et là, vous verrez que ce n'est pas secret du tout. Il y a moult détails sur... à la fois les caractéristiques, les prix, enfin tout ça, tout ce qui peut intéresser les gens qui veulent en savoir plus sur les produits Belgianski. Autre lettre, c'est un auditeur qui dit... Alors vous allez voir comme c'est futé son truc. Je suis un vieux resquilleur de Radio Courtoisie.
Oh, que c'est vilain.
Mon remords m'avait décidé à réparer aussi largement que possible cette longue carence, quand ce matin, j'ai entendu Serge de Beckett, orthographe, dit-il entre parenthèses, c'est curieux parce que la plupart des lettres que je reçois commencent par, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Les noms propres n'ont pas d'orthographe.
On ne vous appelle pas encore Thomas.
Non, pas ça, on m'a appelé souvent Thomas,
ah oui.
pas dans le courrier là. Donc j'ai entendu Serge de Beckett, et après je dirais le bon moyen d'avoir la bonne orthographe pour mon nom, tenir au sujet de notre Saint-Père le pape Jean-Paul II des propos d'une violence stupéfiante qui ne pouvait être inspirée que par une haine frénétique. Vous connaissez quelqu'un qui est à peu près aussi mesuré que moi. Hein. Je n'ai jamais relevé parmi vos émissions quoi que ce soit qui en approche. Je vous avoue qu'avant de mettre à exécution mon projet de réparation, j'attendrai d'être remis de mon indignation. Alors ça, c'est vraiment un coup qu'on connaît. Hein. Un truc que je paierai plus tard. Bon. Enfin bref, je vais quand même m'expliquer. Pas du tout tenu des propos d'une violence stupéfiante contre le pape. Vous m'avez mal entendu, cher monsieur. Vous m'avez mal écouté. Ce qui est pire encore. Parce que j'ai dit, pas du tout, le pape, je l'aime bien, moi, le pape. Bon, je suis pas papolâtre, parce que la papolâtrie, c'est pas catholique. Mais j'aime bien
quand
le pape.
Même papiste. Hein? On est quand même papiste.
Oui, je suis papiste, bon, enfin, bon, disons, modérément. Enfin, je suis papiste, quoi, voilà. Bon. Et donc, j'ai pas dit de mal de lui, j'ai simplement dit que le disque qui a été fait à partir d'enregistrements de Notre Père, chanté par lui, était une épouvantable cochonnerie. C'est pas le pape qui est un épouvantable cochon. C'est les petits macros qui ont pris ces textes pour en faire de la musique. Alors à ce propos, Victoria, une autre lettre. Donc monsieur, vous pouvez envoyer, si j'ose cette plaisanterie que vous serez seul à comprendre, votre pognon à Radio Courtoisie. Et de rire. J'ai un esprit vraiment extraordinaire. Et Victoria, cher monsieur, vous vous êtes fâché tout rouge le 24 contre Madame Victoria. Et vous avez eu grandement raison. Madame Victoria est une bonne chrétienne. Ah, c'est mal, un chat, hein. Mais elle ne comprenait pas qu'on ne joue pas avec le pater interprété en slow tango.
Mais il n'est pas en slow tango.
Oh, ça y est, elle va repartir.
Oh, taisez-vous.
Vous n'y connaissez rien. On va, alors, après, je vais vous lire. Attendez. Non, mais taisez-vous. Taisez-vous ou je vous vire.
Ah, Seigneur. J'en ai un message sur le sujet, hein, aussi, moi.
Attendez, taisez-vous, laissez-moi finir, parce que après je vais vous lire quelque chose, vous allez comprendre le... Voilà, bon. Jamais les musulmans ne danseront sur un verset du Coran. Donc nous avons le droit et le devoir de protester comme vous l'avez fait. Je vous ai applaudi de tout cœur. Il y a quelqu'un qui n'applaudit pas des deux mains. Parce que moi j'aime bien les gens qui applaudissent des deux mains, parce que j'attends toujours qu'on me présente quelqu'un qui applaudit d'une seule.
J'ai un auditeur, moi.
Non, Victoria, bah, vous
c'est,
permettez
c'est,
Non.
C'est je la compte. Réponse à ce que vous dites.
Non, je continue.
À dégager.
Non, pas à dégager. En temps et en heure, quand le moment sera venu, je vous donnerai la parole. Pour l'instant, c'est moi le chef.
Mais
en dépit de l'entrée de Christian très Daniel.
La démocratie.
La quoi?
La démocratie, non.
Écoutez, vous êtes au micro de Radio Courtoisie, je vous prierai d'être poli, madame. Pas employer des termes dégoûtants. Alors, cher monsieur de Beckett, voilà un monsieur intelligent.
Oui.
Lors de votre émission du 24 février, vous avez évoqué le disque réalisé avec la participation, j'ajoute involontaire, du pape Jean-Paul II. Jean-Paul II, pardon. Ayant quelques informations à ce sujet, ben ça s'écrit I,
j'ai pas. C'est son nom de famille, je suppose.
Il l'appelle monsieur 2 à gauche, vous avez remarqué ça?
Ouais.
Ayant quelques informations à ce sujet, je tiens à vous apporter mon témoignage. Ce disque reprend 4 à 5 discours réalisés par le pape tout au long de son pontificat et les plaques sur des musiques contemporaines. Ne connaissant pas le latin, je ne sais quel est le contenu des extraits sélectionnés. Le pape n'a donc pas eu à intervenir spécialement pour autoriser cette réalisation. A priori, on pourrait supposer que le but est louable. Est-ce que vous m'écoutez, madame Victoria? Ben, vous feriez bien de m'écouter parce que vous allez prendre votre paquet. Écoutez bien. Mais comme vous le soulignez, monsieur de Beckett, il est suspect de voir l'acharnement que les médias mettent à le promouvoir alors que la population n'a aucune intention a priori de l'acheter. J'ai eu à travailler dans un institut de sondage et c'est pourquoi je vous écris anonymement. Merci de bien vouloir me comprendre. Vous pourrez avoir d'autres renseignements à mon sujet, blablabla, patin couffin, etc. J'ai participé à une enquête, ce qui veut dire qu'il me donne les moyens de savoir qui il est. C'est pour ça que je lis sa lettre anonyme. Autrement, je ne les lis pas, les lettres anonymes. D'autant qu'elles ne sont pas signées. Donc, j'ai participé à une enquête qui consistait à recueillir l'avis de quelques sondés au sujet de différents disques, dont ce fameux enregistrement. Dans le cadre de cette étude, nous faisions entendre 4 extraits de disques aux interviewés, le dernier étant celui du pape. Nous demandions pour chacun d'eux si la personne envisageait d'acheter le disque. À l'époque, il y a 15 jours, probablement avant le matraquage de ce disque par les radios, aucun des sondés n'envisageait d'acheter le fameux disque du pape. Alors pourquoi vouloir l'imposer à tout prix sur les chaînes de radio et de télévision ? Mais plus grave, tout de suite après la dernière question du sondage concernant donc ce fameux disque, nous avions à demander « Êtes-vous catholique pratiquant, catholique croyant, d'une autre religion, sans religion ?» Or, habituellement, ce genre de questionnaire dit statistique comprend les questions suivantes. Êtes-vous catholique, protestant, juif, musulman, autre, sans, adorateur de l'oignon, etc. Pourquoi donc cette question sélective après une série de disques qui, pour 3 des 4, n'avaient rien à voir avec la religion ? Qu'est-ce que c'est que cette chasse aux catholiques ? Victoria est malheureusement bien naïve, qu'elle ne perde pas de vue que les meilleures causes apparentes peuvent être détournées. C'est bien ce qui semble être le cas ici. Avec habileté, on cultive la nostalgie religieuse de certains d'entre nous pour désacraliser l'image de la religion catholique, puisque d'après ce que j'ai appris par votre émission, on dansera sur cette musique.
Mais on dansera encore une fois.
Tu te tais, Victoria.
Oh, mais qui a dit qu'on danserait
dessus ? Eh bien, toutes les radios l'ont dit. Toutes les radios ont dit que ça sera le slow de l'été. Voilà. Bon courage, car cette dernière n'est pas particulièrement dansante, à part le slow peut-être.
Exactement.
À part le slow. Oh, bah, tu m'as l'air d'une spécialiste du slow, alors.
Ah, bah, ça, oui, j'ai dansé le slow.
Comment donc ?
J'aime mieux le passo d'âme, mais bon.
Bon, enfin, c'est pas vrai. Il y avait déjà des tourne-disques à l'époque.
Ah, mais un phono que je remontais à la main, moi. Brum, 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 c'est des voix la spécialiste. Ah,
bon. À part le slow peut-être, point de suspension, et encore, point d'exclamation écrit.
Justement, c'est pas
cet
fait
auditeur
pour danser.
Qui, lui, n'est pas dupe. J'ai relevé récemment dans une revue lue au hasard le passage suivant. L'image ouvre le cœur et l'intelligence. La fin du XXe siècle, plus sensible aux sons qu'aux images, se conforme aux besoins de facilité qu'éprouve nos contemporains. Le rythme provoque rapidement un état extatique. C'est vrai qu'elle est extatique, Victoria. Elle est complètement révulsée. Notre drogue, nouvelle drogue, qui facilite une recherche facile, non personnalisée d'un état second, d'un monde décalé, fuite du réel, mais sans but de connaissance, on dérive dans l'impalpable, gratuitement, sans objectif.
C'est bien dit.
Voilà. Un conseil final à vos auditeurs, mais toujours SVP, sans faire état de ma fonction professionnelle. Alors ça, c'est complètement raté. Ne répondre à aucun sondage et ne pas accepter que vos enfants soient sondés. Il faut réaliser en effet que l'enquêteur affirme au départ, pour faire tomber les réticences et pour la plupart de toute bonne foi, que les sondés sont choisis au hasard, mais nous demandons confirmation du numéro de téléphone en fin de questionnaire, donc à tout moment, on peut retrouver celui qui a accepté de répondre. Les milieux catholiques semblent actuellement être la cible de la curiosité des organismes de sondage. À ajouter, les enquêteurs sont payés au questionnaire, le piège se referme donc sur eux. Donc inutile d'insulter ces pauvres R. Voilà ce que je veux dire. Alors, puisqu'on parle de sondage, je m'en vais continuer sur ce sujet. Il y a M. Chabanis qui vient souvent à cette émission, Alexandre Chabanis, qui est le fondateur et le responsable du choix du peuple français, qui est très engagé dans les questions, notamment en ce moment dans l'affaire du sang contaminé, et notamment dans l'affaire du tribunal dont on vient de découvrir qu'il était complètement grotesque et anticonstitutionnel, chose qui quand même avait été annoncée depuis 1992.
Anticonstitutionnel.
Ah bah oui, bien sûr. Il est complètement anticonstitutionnel. Puisqu'il bafoue les principes de la Constitution, qui sont la séparation des pouvoirs, la possibilité à tout citoyen d'ester en justice, puisque là, les victimes n'ont pas pu agir.
Est-ce que c'est pas justement une réforme constitutionnelle qu'il avait instituée?
C'est ça. Non, mais oui, une réforme constitutionnelle, mais à l'intérieur d'une constitution qui interdisait. Donc, mais ils sont tous en train de s'en apercevoir. Tascal a dit... Oui, bien sûr, à moins que la Constitution soit faite...
La conception juridique française, c'est pas gênant.
En tout cas, quoi qu'il en soit, pour en revenir à ce que je disais, mon excellent camarade Alexandre Chabanis vient d'apprendre qu'il avait été condamné à 100 francs d'amende pour avoir refusé de répondre à certaines questions du précédent recensement. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, pour savoir combien il y avait d'habitants, de combien de membres dans sa famille, il fallait absolument savoir si c'est les 10 membres de sa famille, non pas 10, mais les 10... Susdit membre de sa famille faisait leur toilette le matin sur une salle de bain équipée d'une douche ou d'une baignoire. Vous voyez pas ce que ça avait à voir avec le nombre des habitants. Donc il a poliment, enfin autant que faire se peut, envoyé au plot le sondeur ou le recenseur, qui a fait un rapport. Le rapport a suivi et il a été condamné à 100 francs. Alors ce qui est intéressant, c'est d'une part, c'est surtout que c'est pas beaucoup 100 francs. Enfin, c'est toujours ça.
Mais il faut, pour 100 francs, on peut refuser de répondre à toutes les questions.
Ah ben moi, pour le même prix, on pourrait même... Je sais pas si c'est le même prix, mais si on peut gifler pour ce prix-là, je veux bien.
Vous vous imaginez que dans les cités sensibles, les gens vont répondre ou répondre sérieusement, ça va être une foutaise.
Ils vont pas comprendre.
Innommable.
Ils vont rien comprendre.
Ce recensement est ridicule.
Ce que je veux dire, c'est surtout... Regardez comment ça fonctionne, leur système. C'est un système de terrorisme. C'est un système fondé sur la terreur, au même titre que le système révolutionnaire. Parce que cette infraction a été commise en 1990, donc il y a 9 ans. Et comme par hasard, la condamnation tombe la semaine où...
La prescription.
Non, mais il a été jugé il y a plusieurs mois, non, il y a longtemps.
Pour réussir à faire durer la procédure pendant...
Ah, mais une fois que la procédure est engagée, il n'y a plus de prescription.
Si.
Pour relancer.
Il faut un nouvel acte tous les ans.
C'est ce qu'ils ont fait, probablement. Ils ne sont pas avardats, je peux vous dire. Ça, j'ai une forte expérience là-dessus. Ils ne sont pas du tout avards.
Ça dépend qui cherche.
En l'occurrence, lui a appris sa condamnation. La condamnation a été rendue publique la semaine même où est annoncé le nouveau recensement. Donc, il s'agit de faire un exemple. Donc, il est bien clair que vous n'avez pas le droit de refuser de répondre à l'agent recenseur, sous peine de subir une amende de 100 francs, qui quand même...
Ce qui ne s'inscrit pas au casier judiciaire, je pense.
Ça ne s'inscrit pas non plus. Mais il y a une chose qui n'est pas du tout interdite, c'est de considérer que l'agent recenseur n'étant pas un magistrat, il n'est pas en mesure de vous demander de prêter serment, et alors vous pouvez lui raconter n'importe quoi.
Oui.
Ce que, naturellement, je vais me faire un plaisir de faire. Ça, je vous garantis que je vais me régaler. Ils vont avoir le recensement le plus dément qui,
en il y a un certain nombre d'années, c'est encore bien plus extraordinaire. On m'a imposé, pendant une semaine ou 15 jours, de noter toutes les courses de ravitaillement que je faisais. Si j'achetais un kilo de carottes, combien je les payais? Si j'achetais un beefsteak, il fallait faire la liste, jour par jour, de tous les achats.
Et vous auriez été puni à quoi?
Ben je ne sais pas, j'ai obéi.
Vous avez eu bien ça.
Bêtement.
Vous?
Oui, moi.
Mais votre résistance, qu'est-ce qu'elle
est? Mais un culpa.
Alors, et terminons sur le disque. Monsieur, un hurluberlu, se faisant passer pour Jean-Paul II, a enregistré le Paternoster sur fond de techno. La supercherie serait risible si elle avait échoué. Je crains hélas que... Est-ce qu'on dit je crains hélas ou je crains hélas?
Je crains hélas.
Il va me rester en travers du gosier. Je crains hélas que beaucoup de gens se soient laissés abuser. Vous-même êtes visiblement tombé dans le panneau en ne comprenant pas que l'auteur de ce disque a usurpé l'identité du Saint-Père et que ce dernier n'est en rien mêlé à cette bouffonnerie abdominale. Alors là, il y a un envoi de notes pour bien expliquer qu'il ne s'agit pas d'une faute de frappe, mais... Je préfère éviter le mot abominable pour qualifier une œuvre à laquelle est mêlé même barabule le nom du pontife. Quant à moi, je suis sûr qu'un démenti viendra bientôt du Vatican pour la plus grande confusion de ceux qui se sont laissés tromper. Comment penser en effet qu'il pourrait en être autrement? Moi-même, j'aurais été dupe s'il s'était agi du paternoster sur fond de jazz ou de reggae, mais la techno est justement cette musique appréciée à la fois des consommateurs d'extasie, des adeptes du névage, des amateurs de rave, c'est-à-dire de personnes qui verraient dans ce disque, s'il était réellement chanté par le Saint-Père, un cautionnement de leur manière d'être. Vous voyez de vous-même, n'est-ce pas, que jamais Jean-Paul II ne se serait prêté à une telle pantalonnade.
Mais pourquoi il n'a pas dit que c'était pas vrai?
Il va le dire. C'est bien, c'est
Victorien, un sens de l'humour qui est
au rasoir.
Oui,
alors, une dernière anecdote, c'est une auditrice qui m'envoie ça, on raconte qu'une entreprise d'une ville de province a été rachetée par une société états-unienne. Cette entreprise était située rue Gay-Lussac.
Ah oui, c'est connu.
C'est à Toulouse, oui.
C'est quelque part en France.
Non, c'est à Toulouse.
Grand chimiste et physicien, très réputé, non par les ignares, mais pas par les ignares d'états-uniens, qui ont cru que c'était un monsieur Lussac qui était gay. Choqué, ces messieurs ont demandé à la municipalité de débaptiser la rue. Vous savez ce qui s'est passé? Les crétins municipaux ont débaptisé la rue. Ils l'ont appelée la rue Newton. Et cette auditrice dit « Je suis en rage contre ces Français à genoux et contre ces étrangers dictateurs qui peuvent se permettre cela. »
L'histoire n'est pas finie parce qu'il y a eu des groupements homosexuels qui ont protesté, qui ont obtenu que la rue soit remaniée.
J'espère qu'ils ont, ils ont porté les anciennes plaques chez ma tante. Ça vous déplaît, ça, André? N'aimez pas qu'on dise du mal des antiphysiques?
Ah si, si, j'en ai dit beaucoup.
Alors voilà, est-ce qu'on peut écouter un peu de musique? Vous l'avez apporté, là, là. On va écouter quelque chose. On va, je ne sais pas ce que c'est du tout, mais on va voir. Voilà, alors c'est un disque intitulé « Les Tziganes sont de retour » et la chanson s'appelle « Il y a du monde au Balkan ». C'est ça, non ?
Oui.
Voilà, c'est une musique de Tziganes des Balkans. Hein, on comprend pourquoi dans ces coins-là.
Il y a, certains passages qui ressemblent vraiment à l'Andalousie et d'autres qui ressemblent à l'Inde.
Ouais.
Et puis, bah, c'est ça, normal, ça, on dirait de la musique
arabe. Ah oui, on dirait un moment qui va charmer des serpents.
Ouais.
Ça va faire surgir le Naja.
C'est de la musique penjabo-andalousienne. Voilà. Il marche beaucoup, le tigan.
Moi, j'ai entendu du rap tigan sur une disquette. Une cassette que je vous ai donnée, d'ailleurs.
Du rite, du rock identitaire tigan, à ne pas confondre avec le riff, rock identitaire français. Bon, toutes ces bêtises étant dites, on va passer aux choses sérieuses, mais non point ennuyeuses, avec André Figueras. André, donc, vous venez de publier aux environs de Petit Goulag, qui est un livre bien dans votre façon, c'est-à-dire c'est à la charnière du pamphlet et de l'argumentaire.
Oui, exactement. C'est même avec plutôt une proportion majoritaire de pamphlets. Je suis un peu retourné à mes vieilles sources. Il y a un certain nombre de portraits de ministres qui ne sont pas très aimables, qui ne sont même pas très galants quand il s'agit des dames. Mais puisque maintenant les dames sont des hommes,
ah oui,
comme nous, alors elles n'ont plus droit à notre respect spécial, ouais, et à notre galanterie. Il faut savoir.
Enfin, ça dépend lesquelles, quand même.
Oui, bien sûr.
Les ministres socialistes, bien entendu.
Ben oui.
Les joueuses de tennis, pareil. Mais,
oui,
mais les dames que nous fréquentons, oui, nous...
Victoria,
la droite. D'ailleurs, j'en assène la démonstration.
Vous avez entendu comme il était poli et gentil.
Oh, je suis poli.
Ah.
Je suis poli, je suis ferme, comme il faut être avec les femmes, quoi. Ferme,
oui,
ferme,
oui,
mais courtois.
Ferme à m'étendre.
Voilà.
Cette voisine est plus qu'elle était.
Alors, mais parce que, bon, vous voulez nous dire quelque chose, vous le lirez après.
Non,
alors,
vous m'avez dit qu'il ne fallait pas que je trie les messages, que je vous les lise au fur et à mesure, à la queue leu-leu. Donc, j'attends, alors je les ai retournés.
Je ne suis pas le premier à vous faire le reproche de trier les messages, ma petite Victoria.
Je me
permets de vous le rappeler.
Il
y a des précédents illusions.
Je trouve que le système Lugan est un bon système, c'est-à-dire quand on parle d'un sujet, on a les messages sur le sujet, mais après, on n'en parle pas, on ne parle pas de la pluie. Quand on vous parle de la pluie, il ne faut pas parler du beau temps.
C'est très professoral, voilà. C'est très luganien. Moi,
maintenant, voilà, ils vous attendent. Quand vous direz message, trac, on lit tout.
Voilà. Femme,
message.
Et puis, il faut bien que je me venge un peu parce que c'est pas facile tous les jours, vous savez.
Enfin. Eh oui.
Alors, la première chose, bon, petit goulag, ça veut dire, on comprend assez
ça
bien.
Ça veut dire un goulag adouci, à la française. Ça sera pas la Sibérie, mais c'est déjà quelque chose qui nous englobe dans une espèce d'univers, pas semi-carcéral, quart de carcéral, mais où tout se groupe
gluant
pour nous enfermer, sans que nous en apercevions trop.
Alors, il y a quand même un aspect apparemment contradictoire dans votre démarche, au moins au début, c'est que vous semblez nous dire les choses changent, petit à petit les choses s'aggravent. Enfin, on est effectivement de plus en plus englué, de plus en plus enfermé dans un système qui est une espèce de goulag mou, de goulag pâteux. Vous évoquez l'affaire de Panama. Et vous citez un texte qui montre quand même que sous le soleil de la démocratie, il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles.
Mais ça ne va que s'aggravant, mais ça n'innove pas littéralement.
Non, on ne peut pas dire, parce que quand vous citez le procureur général Quesnay de Beaurepaire, qui tirait à l'intention du président de la République, Émile Loubet, la leçon du dossier de Panama, dans ces termes, il y a des corrompus au Parlement, il y en a beaucoup. Cette plaie est inhérente à un régime finalement favorable aux déclassés. Croirait-on pas qu'on est en plein dans l'actualité? Qui développe les appétits, donc c'est un régime qui développe les appétits sans le poids nécessaire, sans le contrepoids nécessaire de l'éducation morale, et qui, par le jeu du suffrage universel, attire sur le pavé de Paris une foule d'affamés de jouissance qui n'ont pas d'argent et ne veulent pas se résigner à la pauvreté. C'est extraordinaire.
C'est d'une actualité.
Panama, c'était en quelle année?
Il y a un siècle. Un peu plus d'un siècle.
C'est formidable.
Oui, mais c'était juste avant l'affaire Dreyfus, qui a été le moyen de faire oublier Panama. On a reparlé d'autre chose.
C'est ça. Mais vous citez également la déclaration d'un nommé Léon-Étienne Bory, qui fut député de la Corrèze. C'était à l'époque où les députés de la Corrèze étaient recommandables.
Ah oui, il y a plus d'un siècle.
Il a dit, je suis entouré de députés qui, arrivés ici, démunis de toutes ressources, ont trouvé le moyen, au bout de quelques années, de vivre sur le pied de 50 000 louis de rente. Cela suffit pour vous guérir de ce que j'appellerais la pourriture de la chambre, digne pendant de la pourriture d'hôpital. Là encore,
sans de beaux textes.
Oh là là, où est-ce que vous avez trouvé ces textes, Manif?
Je ne sais plus, à force de fouiller dans les choses, il s'agit de rassembler, de regrouper, de montrer qu'il y a une logique, si je puis dire, de la pourriture.
Donc on est bien d'accord, la pourriture est inhérente à la démocratie, et c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait,
non, il y a eu des concussionnaires et des tripoteurs sous tous les régimes, seulement en général on finissait par les pendre ou par les envoyer au moins à Pignerol.
C'est ça, oui, voilà ce que j'allais vous dire, ça finissait à Pignerol, au lieu que maintenant ça finit au perchoir.
Oui.
Quoique Pignerol c'est une forme de perchoir.
C'est le système Emmanueli, on n'est pas coupable à partir du moment où on a été réélu.
Ça, on est lavé.
Bon, mais quel est le lien? Quel lien faites-vous entre cette pourriture démocratique, cette corruption généralisée des élites, et puis le glissement goulagien du système?
Mais d'abord, c'est que cette pourriture qui était tout de même le fait, quand on criait à bas les voleurs au moment de l'affaire Stavisky, les voleurs c'était encore les députés, et ce qui les entourait de près, mais ça se limitait tout de même à ces milieux gouvernementaux très proches. Tandis que maintenant, ça a gagné partout. Mon ami Jean Cosson, qui était conseiller à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, a fait des articles où il expliquait que la corruption était le fondement même maintenant de la marche de la République, et c'est vrai que c'est descendu à tous les étages. Pour avoir n'importe quel système, n'importe quel papier, n'importe quelle chose, en général, il est plus facile de verser ce qu'on appelait autrefois en justice des promptes, qui consistait à induire le greffier à mettre votre dossier sur le dessus de la pile. Mais maintenant, dans toutes les administrations, et pas seulement dans les administrations, tout se fait au bec chiche. Nous sommes devenus un pays comme la Turquie avant Atatürk, et comme je ne sais plus quel autre pays retardataires où tout se fait au bakchich.
Mais il y a déjà 20 ans, un très haut fonctionnaire m'avait dit, si les Français savaient la vérité sur l'état de corruption de la classe politique et de l'administration française, ouais, ils découvriraient que c'est pire, que ça ferait passer, voilà, il avait dit exactement, ça ferait passer la cour du Grand Turc pour un modèle de probité.
Oui. Mais ça, c'est déjà quelque chose de comparable à ce qui était établi en Russie. La nomenclatura soviétique était également extrêmement corrompue. D'ailleurs, ce qui fait qu'ils sont passés maintenant de la nomenclatura à la mafia.
Sans tandis qu'en France, ils n'ont même pas eu besoin de quitter la nomenclatura. Ah, c'est ça, c'est la différence.
Sans mais, aucun effort.
Sans effort, oui, vous avez la formation. Mais cela dit, quand je reprends la citation que vous faites au début de, du procureur, Kenneth Beaurepaire. C'est vrai que si on s'amusait à ça aujourd'hui, si on considérait le nombre d'élus du peuple qui arrivaient, ou plus exactement c'est la citation de Louis-Étienne Bory, qui arrivaient au palais Bourbon dénués de toute ressource, hein, ont trouvé le moyen au bout de quelques années de vivre sur le pied de 50 000 louis de rente, c'est-à-dire 50 000 louis, ça faisait à peu près 1 million de francs.
Ah oui, facilement, oui.
1 million de rente. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là.
Bien sûr.
Je vois par exemple, j'en vois plusieurs que je ne citerai pas, on ne peut pas dire que la situation, je vois par exemple des gens qui avaient débuté en courant dans les allées d'un parc à ferraille et qui se retrouvent maintenant à se pavaner les allées de la place des Vosges.
Vous parler de la place des Vosges. Feu Pierre Boutan a publié il y a déjà longtemps un livre qui s'appelait La République de Joinovici. Et Joinovici a instauré en grand cette corruption qui existait déjà naturellement du temps de Madame Hanot et d'Oustric, mais il l'a démocratisé, il l'a étalé, et beaucoup de gens ont compris le système. Alors maintenant, il y a une couche corrompue à la surface du pays considérable. Mais ça n'est pas, cette corruption n'est pas une découverte. Nous en sommes tous les témoins un jour ou l'autre, même si nous n'avons pas de détails. Ce qui m'a déterminé à écrire ce livre, il y a eu un petit choc, car il faut toujours une étincelle pour que le feu s'allume. Et c'est un jour où j'ai vu Jospin en par-dessus. Et je me suis aperçu que ce par-dessus était un par-dessus soviétique, un par-dessus de ministre soviétique. Long, noir, droit, tout à fait non conforme à l'habillement français. Alors ça m'a fait un petit choc, je me suis dit, mais là c'est une révélation.
François Guillaumin me racontait hier quelque chose qui est exactement Eyüzdem Fariné, vous pouvez me rappeler ?
Oui, c'est dans la bureaucratie de l'enseignement communiste français, le monopole communiste de l'enseignement français, des gens qui n'ont jamais été en Union soviétique, qui n'ont jamais rien lu sur l'Union soviétique, reproduisent la manière de parler, les tics, et les attitudes des citoyens soviétiques. C'est-à-dire que c'est la nature humaine qui est confrontée à des institutions de nature soviétique et qui réagit en se conduisant de manière soviétique.
Donc ils sont versés dans le moule, ils en prennent la forme.
Voilà, c'est Zinoviev qui avait raison.
Alors, parmi les gens que j'épingle, qui sont peut-être pas des corrompus matériels, il y a nos chers amis les évêques, qui se comportent à peu près vis-à-vis du régime comme les popes au temps de Staline. C'est-à-dire qu'ils adoptent toutes les vérités, entre guillemets, du système, même quand elles sont parfaitement contraires à ce qu'enseigne l'Église.
Et puis certains d'entre eux ont même été recrutés au KGB.
Oui, mais oui, mon ami aussi, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont morts. Chateaubriand, sur ses vieux jours, disait... Ma vie contemporaine ressemble à un registre obituaire. Eh bien oui, moi aussi je commence à voir mon registre obituaire. Mais Le Bourg me racontait que dans sa jeunesse, il avait été communiste et il avait été à Moscou à suivre les cours de l'école des cadres sur les religions révélées, où on préparait des gens à s'introduire dans l'Église, et il avait usé ses fonds de culotte, comme on dit, avec Don Helder Camara.
Avant que Camara soit nazi.
Oui.
Il était nazi.
Oui, bon. C'est pas très loin l'un de l'autre.
Oui, c'est la même chose. Enfin, il était, disons, socialiste de la tendance nationale, et après, il a été socialiste de la tendance internationale.
Mon autre ami qui lui était encore vivant, j'espère pour longtemps, François Algou, prépare un livre qui montre que le marxisme et l'hitlérisme, c'est pas loin l'un de l'autre. Je le sais parce qu'il m'a demandé de faire une préface, alors j'ai donc le manuscrit sur mon bureau. Mais je crois que c'est vrai, tous les totalitarismes sont de la même eau. Si on peut parler d'eau, ils sont du même sang.
Oui, plutôt. Comment se manifeste pour la première fois dans le système français, enfin hexagonal, parce qu'on n'ose pas parler de français, cette espèce d'irruption d'un système goulag?
Il se manifeste d'abord sur le plan de la liberté d'expression, qui est vraiment rognée au maximum. Nous en voyons des exemples constants. On ne peut plus. J'ai été tout à fait étonné d'entendre hier qu'on rééditait un roman de Robert Sabatier qui s'appelle, je crois, Vincent et le Nègre. On ose mettre le mot nègre dans
un point de suspension.
On a dit Vincent et le Nègre. J'étais très surpris parce que même ce mot qui n'a aucune connotation péjorative est théoriquement supprimé du vocabulaire. On rogne dans Shakespeare.
On peut plus parler de lettres des dictionnaires parce que ça.
Oui, pourquoi pas. Mais enfin, ça c'est déjà une chose. Mais on ne peut surtout plus s'exprimer dans beaucoup de domaines. On est obligé de prendre des précautions, de tourner autour du pot, ce qui ne me convient pas à outre mesure. J'essaye de m'habituer à cette langue de bois, de plume, mais je n'y arrive pas.
Vous employez des circonlocutions, par exemple, au lieu de dire un aigle, vous dites un oiseau de couleur.
Un oiseau de couleur.
Oui. Évidemment.
Est-ce que le point de départ, donc c'est cette fameuse nuit de 87, du 8 octobre 87, où subrepticement Chalandon a fait glisser dans une loi contre la drogue un amendement qui interdisait la publication des écrits révisionnistes?
Ah non, je ne connaissais pas ça. Je ne
connaissais pas ce détail.
Ah non.
C'est les imbéciles du Palais Bourbon ont cru qu'ils votaient contre la propagande pour la drogue et ils ont voté pour interdire les ouvrages et les travaux des révisionnistes.
Ah bon?
Oui, ça s'est passé nuitamment à 0h45 le 8 octobre 1987.
Ils n'étaient pas nombreux
dans des
séances,
conditions
sans
très
doute
différentes.
Mais elle n'interdisait pas la recherche historique.
Le grand système, c'est la télévision qui est le système d'encadrement des esprits, de déformation de toute chose. Mais moi, j'essaye de donner dans ce livre quelques conseils. Je donne aussi des conseils de la façon de traiter les évêques, très poliment s'ils sont convenables et beaucoup moins poliment s'ils ne sont pas comme il faut.
Mais pour ce qui est de la course à l'échalote qui est un bon truc.
Pour ce qui est de la télévision, je propose le jeu du speaker menteur. C'est-à-dire que, étant donné que ces messieurs ou ces dames ont évidemment reçu les mêmes consignes et la même information, si j'ose dire, il suffit de comparer d'une chaîne à l'autre pour s'apercevoir qu'il y a quand même des petites différences, parce qu'ils n'ont pas tous bien compris le truc, et avec ces petites différences, on décèle où est le mensonge. Il y a une petite faille qui permet d'apercevoir le mensonge sous la couche. Et c'est assez amusant à faire. Moi, je ne suis pas partisan de supprimer les postes de télévision, je suis partisan qu'on regarde les infos, ce qu'on appelle le journal, pas le reste, parce que le reste, c'est vraiment misérable en général. Sinon, à 2h du matin, il y a quelquefois des émissions possibles.
Mais il y a toujours des émissions sur la chasse, par exemple,
oui,
ou sur la nature.
Oui,
sur
mais très, très tard, très nuitamment. Oui. Alors, ce qu'il faut faire, ça, c'est brancher son magnétoscope et son horloge de magnétoscope. On enregistre et puis on le regarde placidement. Mais les journaux comparés de TF1, d'Antenne 2 et FR3 permettent de voir ces petites différences où ça ne se rejoint pas tout à fait, ça ne se recouvre pas absolument, et alors dans le petit intervalle, on aperçoit le mensonge, la couleur du mensonge.
Quand même.
Oui, mais on s'entraîne, c'est un exercice à pratiquer qui est intéressant et qui est rentable, parce qu'on là, on constate la réalité technique du mensonge.
Si on n'avait pas l'impression quand même que l'essentiel de la goulagisation passe par l'éducation nationale.
Ah, naturellement, mais là je n'ai plus d'enfants en âge scolaire et mes petits-enfants n'y sont pas encore, car vous savez que j'ai eu une petite fille
je ne savais pas. C'est vrai.
J'ai
que...
une petite fille qui est née le 5 janvier, fille d'Olivier et de Jeanne, et qui le 9 février a été baptisée par le père Raphaël, qui était de passage à Paris. Ça a été vraiment
Tonton Raphaël, donc.
La joie parfaite.
Bon. Félicitations à l'heureux grand-père.
Bon, mais cela dit, l'éducation nationale, oui, par tout ce que j'en entends, par tout ce que je peux en constater, est devenue vraiment une école soviétique aussi.
Alors, il y a une
fabrique des âmes,
mais
des âmes tordues.
Maintenant, ça a été légiféré, si j'ose dire. Ça a été légiféré au mois de juin 98, où la Chambre a voté à l'unanimité, dans la différence générale, ou quasi générale, une loi. Et là, c'est un peu le même coup que l'histoire de la loi contre la drogue. Là, on a fait une loi pour assurer le libre accès à l'enseignement. Et en fait, dans cette loi, il a été glissé des dispositions qui reviennent à interdire aux parents de soustraire leurs enfants au système éducatif d'État.
Oui.
C'est-à-dire que l'article 4 de cette loi prévoit, par exemple, que tout parent qui aura inscrit son fils, qui aura inscrit son enfant dans un établissement hors contrat, sans en informer la mairie de son lieu de domicile, pourra, sur dénonciation d'un voisin, de la DDAS, du médecin de la famille,
ou
du maire, pourra donc, sera condamné à 10 000 francs d'amende. Et si il s'avère que l'établissement dans lequel il a mis cet enfant ne dispense pas un enseignement conforme aux valeurs républicaines, fermez les guillemets, la sanction, la condamnation sera de 6 mois de prison et de 50 000 francs d'amende.
C'est bien ça.
Quant au directeur de l'établissement qui dispensera cet enseignement non conforme aux valeurs républicaines, il sera lui-même passible de 6 mois de prison, 50 000 francs d'amende et de la fermeture de l'établissement. Ça s'est passé, ça a été voté. Ouais. C'est Mme Ségolène Royal qui a fait voter ça. Ça a été voté à l'unanimité. Et tous les crétins écharpés
sont
forcément scélérates. Et tous les crétins écharpés du RPR, de l'UDF, du CDS, les communistes bien entendu, les socialistes, les radicaux, enfin ils ont tous voté comme
oui,
un
mais
seul
que homme. Les gens de gauche l'aient voté, c'est dans leur logique.
Mais les gens de droite ont voté
mais
aussi.
Les gens de droite sont des gens de gauche, dissimulés, enfin, mal dissimulés.
Voilà. Le prétexte, c'est de lutter contre les sectes.
Oui, bien sûr, ça ouvre toutes sortes de possibilités.
Ouais. Je le signale parce que...
Le grand prétexte au socialisme, c'est les drogues, c'est les sectes, c'est la pédophilie,
c'est ça.
Et c'est l'escroquerie aussi.
Sur malheureusement, Internet, malheureusement...
Les trois moyens sont comme les mousquetaires, ils sont quatre.
Oui. Malheureusement, les écoles libres ne donnent pas un enseignement qui soit beaucoup plus honnête et...
Oh, bah, ça
dépend desquelles.
Elles ne sont pas libres.
Les écoles diocésaines... qui dépendent de nos chers effets, que je radote, mais je reviens toujours à ces messieurs, parce que je crois que leur responsabilité est immense, car ils pourraient faire contrepoids. L'Église devrait être là pour faire contrepoids à tout cela. Or, elle va dans le sens du poids.
Là, dans une école communale, de celle sur, je sais plus quoi, dans le nord de Paris, il me semble, on fait travailler aux enfants le spectacle de fin d'année. C'est une école communale. Et on fait chanter aux enfants « Nous sommes des sans-papiers, des femmes et des hommes sans domicile, nous sommes 10, nous sommes 100, nous sommes 1000 » pour la rime avec
la rime riche, oui.
« Ô Notre-Dame, nous venons crier « Asile, asile !» Alors, pour une fois, dans une école communale, on implore Notre-Dame, mais c'est uniquement pour faire entrer dans le crâne des gosses qu'il faut accueillir les demandeurs d'asile à tire-larigot. Alors j'ai téléphoné à cette école pour avoir plus d'informations sur cette histoire et on m'a dit que c'était conforme à un travail d'études qui avait été proposé aux enfants, c'est des enfants de 7e, hein, donc 10 ans, 11 ans, un travail d'études qui avait été proposé aux enfants sur le spectacle actuellement diffusé à Paris qui s'appelle Notre-Dame.
Ah bon ?
Autrement dit, on en est au stade maintenant où dans les écoles communales, on fonde l'enseignement sur les spectacles du showbiz parisien, et on s'en sert pour leur bourrer le crâne avec les principes de la pensée unique, c'est-à-dire
Il faut accueillir les sans-papiers, les sans-domicile, les sans-métier, les sans-argent, les sans-carte d'identité, etc.
L'abolition des droits de propriété sur les salles.
Voilà,
c'est ça.
C'est un principe communiste. Voilà, absolument. Et oui, vous écoutez Radio Courtoisie, je le dis parce qu'ils sont en train de faire des gestes.
Voilà. Je ne vois pas de toute façon.
Et donc,
pour faire une dissimulation.
Pour venir à l'aide de cette opération de bourrage de crâne, là, on autorise l'évocation de Ô Notre-Dame. Alors, je vais demander simplement à la directrice de cette école ce que pensaient les petits juifs, les petits musulmans, les petits protestants à qui on demandait d'un seul coup d'invoquer Notre-Dame dans les chants de fin d'année, dans les chants du spectacle de fin d'année. Ça paraît n'émouvoir personne. Tout ça, on vit dans un système qui est aberrant, mais ça convient.
Oui, en plus, l'absurde fonctionne à tous les étages. Et alors, le seul piment sur le sinistre du système, ce sont ces fantaisies de zozo qui inventent des choses complètement grotesques, à qui on le laisse faire parce que c'est le petit exutoire, un exutoire ridicule et fort ennuyeux, mais enfin. Avec ça, on tâche de divertir un peu la population.
Vous avez fait un index dans votre livre, ce qui est une très très bonne idée.
Ce que je fais généralement, oui.
Généralement, et là, ça facilite beaucoup le travail. Et on s'aperçoit que parmi les gens qui ont les honneurs de votre plume, un des plus omniprésents est Guesso, qui ne le cède qu'à Jules Michelet, ce qu'il faut y voir une...
Non, alors, je dois
et
dire,
à Lustiger, d'ailleurs.
Je dois dire que j'ai reçu récemment une lettre d'un lecteur qui me reproche d'avoir cité Michelet. Il est évident qu'on peut tout à fait discuter la manière dont Michelet a conçu l'histoire, mais moi je tiens que Michelet était un grand Français qui aimait la France. C'était un homme de gauche sans doute, mais il aimait la France, comme beaucoup d'hommes de gauche autrefois, qui n'étaient pas intégrés dans cette pensée, dans cette manière de penser tout à fait odieuse et monstrueuse. J'ai connu même sous la 4e République, j'ai connu des hommes de gauche qui étaient de bons Français. Commencé par Robert Lacoste, Jules Motte.
Jules Motte qui tuait des communistes.
Qui nous a sauvés du communisme en 1947. Voilà. Si Jules Motte n'avait pas été ministre de l'Intérieur, les grandes grèves insurrectionnelles du Nord déferlaient sur tout le pays. Mais ça s'est passé ce temps-là. Maintenant, les socialistes sont devenus des bolcheviques.
Après le congrès d'Épinay, justement.
Madame Victoria, est-ce que vous voudriez nous lire quelques questions?
Mais certainement, je retourne le paquet.
Elle est contente, elle jubile d'avance parce qu'elle ne sait pas du tout ce que c'est. Elle va le découvrir.
C'est pas ce qui va sortir.
Dans un désordre infernal.
Nous comprenons l'attitude de Victoria. C'était celui que j'avais lu, c'est le seul. Elle est très fleur bleue, même qu'il y a une petite fleur dessinée par M. Guillaume. Mais n'oubliez pas que le pape est très mal entouré. C'est satanique tout cela.
C'est vrai qu'elle sélectionne les messages.
Vous avez en ce moment sur France 2 une émission pour les enfants, une heure, sur l'homosexualité. On y a prôné cette tendance dans des termes assez crus. Il est utile de rappeler que cette chaîne fonctionne avec la redevance. J'ai réécouté vos propos sur le foulard islamique. Nos ennemis sont aussi vos ennemis. Avez-vous lu à ce sujet dans le dernier Marianne un article sur les événements du collège de Flers? Ce qui arrive aujourd'hui aux musulmans risque d'arriver demain aux catholiques. Cette gauche caviar a les mains pleines de... Je ne vois pas, il y a des petits points. Et de sang. Merci pour votre lucidité.
Et ben voilà, c'est
si tous les chrétiens étaient comme vous. Une suggestion pour les brûleurs...
Comme elle a pincé les lèvres en disant ça.
Une suggestion pour les brûleurs de voitures GPL. Plutôt que de peindre les plaques en vert, on devrait les peindre les individus en vert. Très bonne
idée.
À Monsieur Figueras, pouvez-vous avoir la gentillesse de dire deux mots de Saint-Eugène, l'Église?
On lit d'abord.
Il a dit non.
À propos du livre dont vous venez de parler, c'est Philippe de Villiers qui parlait de François Léotard. Ah, du livre à colorier. Dont vous venez de parler, c'est Philippe de Villiers qui parlait de François Léotard. On n'a pas encore fait de rap ou de rock avec des prières musulmanes, parce qu'il n'y a pas encore assez de musulmans en France. Mais...
Non, je crois que ce n'est pas la bonne raison. Je suis certain que si un rocker allait sortir un truc... Regardez les ennuis qu'ont les... Il y a du rock algérien qu'on appelle le raï, qui est une forme de rock maghrébin. qui s'appelle le RAI. Eh bien, les chanteurs de RAI se font descendre par les gars du GIA. On ne plaisante pas avec ça là-bas. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait que les catholiques fassent la même chose, mais je pense que quelques dégelés de coups de pied aux fesses de voilà. temps en temps, ça ne mangerait pas de pain. C'est pas
mais vrai. Oui.
Je vous trouve d'une étrange mansuétude pour l'actuel pape crooner. Le disque que j'ai entendu ne consiste pas, comme vous venez de le dire, en des propos parlés du pape, sur lesquels on aurait plaqué, a posteriori, de la musique, mais bien un texte chanté et non pas parlé. On ne peut donc essayer de faire croire que ce pape a été manipulé. Il s'agit d'un sacrilège conscient et délibéré.
Et toc.
Pourriez-vous cesser de... Je ne sais pas, là, ça doit encore être un gros mot. Continuellement, sur tous les sujets, y compris sérieux. On peut avoir envie de rigoler, mais il y a des moments où il faut être sérieux.
Mais comment voulez-vous...
Faites du tort à Radio Courtoisie.
Mais écoute, arrêtez, c'est un argument que je récuse absolument. Le seul à qui je peux faire du tort, c'est moi-même. Je ne fais aucun tort à Radio Courtoisie. Je n'engage pas Radio Courtoisie par mes propos, premièrement. Deuxièmement, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas plaisanter. Comment voulez-vous faire? Puisque la police de la pensée et le politiquement correct nous interdisent de dire ce qu'on pense réellement de la situation. Comment voulez-vous réagir autrement que par un sourire grinçant, ouais. un rire amer? On ne peut pas. On est obligé. Si vous voulez que je vous parle du sang contaminé...
Là aussi, c'est une attitude soviétique, oui. le sourire grinçant.
Mais bien sûr, c'est typiquement une attitude de dissident.
Ouais.
Refuser.
Pas uniquement les dissidents, tout le monde.
Comment voulez-vous faire autrement que de ritonner, de ricaner, quand vous êtes confronté à un tel déferlement d'ordures et à un tel nombre de crapules arrogantes? On ne peut pas faire autrement.
C'est la méthode de Rabelais.
Voilà, il faut. Parce que si vous voulez que je vous dise ce que je pense réellement des juges de la cour, du sang, enfin, tribunal du sang contaminé, ce que je pense des acquittés, ça va être terrible pour... Là, vraiment, ça va faire courir un gros risque à Radio Courtoisie, oui. Donc je préfère en rire. Je préfère dire au moins une chose là-dessus, c'est que, véritablement maintenant, on sait que, une fois pour toutes, il y a un moyen infaillible de reconnaître un imbécile. C'est le gars qui vous dit « Moi, j'ai confiance dans la justice de mon pays.
» Alors, une auditrice. Étant donné que vous êtes d'origine russe, pouvez-vous nous donner votre sentiment sur la personne de Boris Eltsine, conspué et diffamé par les mondialistes et les francs-maçons, ainsi que les communistes qui ont demandé sa destitution? Il n'est pas malade, il souffre du dos dû à une chute lorsqu'il était jeune, il n'est pas alcoolique, mais est prisonnier de son premier ministre communiste qui a fait annuler ses voyages à l'étranger. Boris Eltsine est mis en quarantaine. Il n'a plus le droit de voyager ni de s'exprimer dans son propre pays.
Je ne peux rien dire parce que je n'ai aucune autre information que celles qui sont diffusées par les médias officiels. Je me rappelle une chose, c'est que quand Boris Eltsine était venu à Bruxelles ou à Strasbourg, je ne sais plus d'ailleurs, pour rencontrer les députés européens, Jox, le sympathique Monsieur Jox, l'honnête Monsieur Jox, le rigoureux Monsieur Jox, le souriant Monsieur Jox, le cultivé Monsieur Jox... L'aimable Monsieur Jox l'avait viré littéralement.
À l'époque,
il n'était que
président voilà. de la Russie. L'URSS existait encore.
Alors, pour moi, quelqu'un qui a été injurié par Monsieur Jox ne peut pas être complètement mauvais, premièrement. Deuxièmement, quelqu'un qui aime la vodka ne peut pas être complètement mauvais non plus. En tout cas, c'est pas moi qui pourrais leur faire leur reproche. Et voilà, je trouve qu'avec son brushing, il est plutôt rigolo. Il ressemble à W. C. Fields, pour les vrais amateurs de cinématographe, en moins drôle quand même. Mais voilà.
Un auditeur. Le recensement, je suis contre. Cette démarche ne sert que les intérêts de l'État. Selon moi, une majorité de gens devraient le refuser en invoquant le refus du gouvernement à remettre en question le traité d'Amsterdam par voie de référendum.
Oui, mais si vous refusez, vous serez condamné à 100 francs d'amende.
Ça ne fait rien, ça les embêtera.
Si vous avez les moyens pour pas bouger.
Oui, mais c'est toujours le même problème si tout le monde refusait, mais voilà. On va être 3 appelés, 4 scandés.
Certainement pas. Vous n'en faites pas, il y aura beaucoup plus.
Non, c'est beaucoup plus rigolo.
Ah ben, il y aura les gens des cités sensibles,
non,
oui. Qui
c'est... Non, tous les gens qui refusent de
c'est beaucoup plus amusant de dire n'importe quoi.
Oui.
J'ai 18 enfants.
Moi, je vais mettre que je ne sais pas lire et écrire. Voilà. Profession écrivain, savez-vous lire et écrire?
Non. Et avez-vous une salle de bain ou une baignoire? Rien, j'ai rien, je ne me lave pas. Voilà. C'est ça qu'il faut répondre.
Ben oui. Non,
mais il faut comprendre que
s'amuser
les hommes de l'État n'instituent les recensements que pour leur intérêt à eux.
Remarquez, il suffit pas de. Enfin, c'est pas absolument nécessaire de savoir écrire pour être journaliste. Hein. Ce matin, je lisais le Figaro. Il y a une jeune fille qui, par exemple, signe un article dans lequel on apprend que un prévenu a été condamné à 3 ans de prison ferme, dont deux avec sursis.
Oui, j'ai lu ça ce matin. Dans le Figaro.
Voilà, dans le Figaro.
Journal très lettré.
3 ans de prison ferme, dont deux.
Mais si vous permettez un instant pour une petite détente. Vous connaissez le quatrain méchant qui avait été fait sur le compte de Gilles Romain quand il avait, disait-il, découvert la vision extra-rétinienne. Farigoule, ce qui est son nom, Farigoule, les yeux bandés, lit. Cela ne me surprend guère. Quand on écrit avec ses pieds, on peut lire avec son derrière.
Qu'est-ce qu'il a écrit ?
Je sais pas.
Ah, c'est magnifique.
Oui, c'est à l'époque où on avait encore un peu d'esprit, quelquefois méchant, quelquefois injuste, mais c'était drôle. Maintenant, on tombe dans le...
Une auditrice. Ils étaient tous là de retour à l'Assemblée aujourd'hui. Fabius à son perchoir. Il a dû avoir peur de se faire remplacer trop longtemps. Hervé dans les travées. Les seules paroles d'or qui ont été prononcées à l'issue de l'arrêt de la cour l'ont été par Madame Rouy, malade dans son fauteuil roulant. Les politiques, c'est comme les gangsters. Si on ne les prend pas la main dans le sac, on n'arrive jamais à les coincer. Paroles d'or, vraiment.
Ma grand-mère disait, la queue lui sortira de la bouche, il prétendrait que ce n'est pas lui qui a mangé le rat.
Un auditeur, avez-vous une...
Ça coupe davantage de risques, moi.
Un auditeur, avez-vous une opinion, et si oui laquelle, sur la déclaration dans le Figaro de M. Sid Ahmed Yayaoui, conseiller de Jean-Marie Le Pen, pour les questions musulmanes qui réclament la réintégration des fanatiques islamistes en chador dans les lycées.
Ben oui, j'ai déjà dit, moi je suis tout à fait d'accord ici, Amel Yaoui.
Oui, je crois qu'on a mal compris le problème, il me semble aussi. C'est une première mesure, pour après ça on interdira aux bonnes sœurs de venir à la Sorbonne ou aux séminaristes d'être en soutane.
Voilà, c'est tout.
C'est un premier épisode.
C'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas marcher dans cette campagne. Qu'est-ce que ça peut vous faire que les gamines se baillent à l'école avec un foulard sur la tête. Je répète qu'il faudrait faire une statistique en France et savoir combien de vieilles dames ont été attaquées dans le métro par des jeunes filles en tchador. Si on fait la preuve qu'il y en a beaucoup, je serais d'accord pour supprimer le tchador. Je préférerais d'ailleurs qu'on supprime les jeunes filles en question plutôt que le tchador.
Et il y a eu quelqu'un, un journaliste, qui a interrogé le grand rabbin en lui demandant si on interdisait la kippa pour les garçons. Nous le prendrions très mal.
Ben, je te crois, oui.
Ben oui, c'est la même chose.
Il n'y a qu'à essayer.
C'est pas très gênant non plus.
Est-ce que c'est interdit de porter une kippa quand on n'est pas juif ?
Je ne sais pas, ça.
Ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre une croix pour se faire prendre pour un curé.
Mais le gag, ce serait de s'habiller tout en blanc, de s'épousser, pousser la barbe, de se mettre une kippa et une croix.
Oui.
Comme ça, on est cool, Raoul.
Après, j'ai rencontré un type... qui doit être juif, mais qui a fondé un truc, c'est salut, shalom, salam.
Mais c'est très bien ça, c'est voilà. Sympathique comme tout.
Ben oui.
J'avais reçu ici le représentant des Juifs pour Jésus, qui était un garçon très très brillant, ben intelligent oui. Et
pourquoi
sympathique.
Pas.
Un auditeur, un peu avant 18h30, Serge Le Becchetchadi, après toutes ces bêtises, en effet, il était temps de mettre un terme à toutes ces niaiseries, en espérant maintenant qu'il en aura fini avec ces bêtises.
Mais non, je suis payé pour ça. Mal, mais...
Un auditeur, le recensement est très utile s'il est fiable, s'il est réalisé auprès de la quasi-totalité de la population. Sinon, il n'est pas fiable, il est trompeur et même dangereux, puisqu'il va amener l'État à prendre des décisions... en fonction de renseignements faux. Il est évident que le recensement ne pourra se faire auprès... des clandestins, il est certain qu'ils ne pourraient être effectués correctement ou dans les quartiers où les policiers ne peuvent pas intervenir. En conclusion, ce recensement sera nuisible et dangereux. Tout en gardant à l'esprit cette réflexion, je reprends, enfin c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur Becketch, tout en gardant à l'esprit cette réflexion et en agissant en conséquence. Voilà,
c'est très bien.
Un homme, un auditeur, la droite est partie sur une mauvaise pente, on n'avance jamais. Depuis Maurras, il n'y a aucune avancée, voyez ce qui vient d'arriver au Front National, nous avons vraiment la droite la plus bête du monde. Un auditeur, il paraît que le pape est contre la peine de mort, qu'en pensez-vous ? Personnellement, je n'admets pas que seuls les assassins aient le droit de vie ou de mort sur leurs victimes.
Qui périra par l'épée, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Et celui qui a tué, il faut le retrancher du peuple, nous dit la Bible.
Donc, un auditeur sur une radio qu'il aime bien et qui prône la fin du docteur d'or, on s'est vanté de ne jamais répondre au recensement et de ne jamais avoir d'amende. Affaire suivre. Il est passé un disque l'openmatic par le groupe intérim qui dit l'open tu pu et en plus la voix de Martial Billet.
Quelle originalité
quand même.
Pas du tout.
Vous avez cherché tout ça.
Alors,
quelle force d'argument.
Un auditeur. C'est un conseil d'un auditeur pour les cordes vocales et les bronches, faire des tisanes de tussilage ou de bourrache.
C'est très intéressant.
À François Guillaume, avez-vous un lien de parenté avec le professeur Guillaume qui était patron des 15-20 et dont le cabinet se trouvait place des Vosges? C'était son nom.
C'est une famille innombrable et puissante, le Guillaume. À Victoria. C'est pour ça qu'il est dans cette émission. J'essaie de m'attirer les bonnes grâces de la haute bourgeoisie.
À Victoria, c'est vrai. Serge n'est pas poli avec vous. Signé un compatriote bourguignon. Êtes-vous au courant de ce qui s'est passé dans une maison de retraite au Mets-sur-Seine qui est investie par la CGT?
Pour une fois qu'ils sont à leur place.
Un auditeur. À propos du recensement, chaque famille française devrait déclarer héberger un ou deux immigrés. Les chiffres seraient totalement faussés et leur publication une grande escroquerie.
C'est pas citoyen.
Il faut donner aux auditeurs toutes sortes d'idées d'ineptie à raconter.
Serge Lebecquet, pouvez-vous nous donner l'adresse de votre site internet? J'ai essayé de me connecter. A priori, cela ne marche pas.
Je suis incapable de la donner parce que c'est tellement long. Si j'en ai un, bien sûr. Il est très beau, d'ailleurs. La prochaine fois, je le donnerai. Ou si Arnaud Maillet le retrouve et qu'il veut bien me passer un coup de fil.
Mais il n'est pas disponible sur le 3615 Libre Journal.
Normalement, il doit être sur le 3615 Libre Journal. Mais Arnaud Maillet, qui s'occupe du 3615 Libre Journal, répugne à se faire de l'autoconcurrence en mettant le site. Alors voilà, c'est
dans
ça,
quel journal officiel, nous dit cet auditeur, avez-vous vu l'information selon laquelle les écoles libres vont être interdites sous prétexte de lutte contre les sectes? Merci de redonner
le journal, je suis obsédé. Le journal officiel du, ça doit être décembre, il faut, je vous donnerai la date précise. Oui, je vous retrouverai ça, je vous le donnerai.
Un auditeur, on ne parle pas beaucoup des comptes bloqués du Front National. Une auditrice. Je vous conseille de lire le texte de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Il y est question des sans-papiers. D'autre part, c'est un véritable blasphème contre le Christ et la Vierge Marie. Il faut le signaler.
En plus, c'est nul sur le plan musical.
Alors, un auditeur, dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, encensée par les médias, il est effectivement question des sans-papiers. Heureusement que votre deuxième demi-heure ne ressemble pas à la première. Ça, c'est l'auditeur de tout à l'heure.
Ça, c'est
avez-vous l'intention de faire une émission sur les ovnis?
Oui.
Notez bien que l'amende pour non-réponse au recensement est de 200 francs et non pas 100 francs.
Ça a pu changer, oui.
Un auditeur, encore une petite dernière, là j'en ai un petit paquet. La présence de M. Guillaume à retour d'exil me fait redouter la reprise de la diffusion des pensées assommantes dont il a le secret. Si cela était, serait-il possible de remplacer par de la musique, même improvisée, par exemple, l'impératrice Victoria pourrait nous fredonner l'Ave Maria en polka ou en passodoble, pourquoi pas, d'avance, merci.
Il y a vraiment des gens qui sont prêts à tout pour ne pas vous entendre, François.
Pourriez-vous nous donner des nouvelles de Jacques Seurat?
J'en ai pas pour l'instant, je crois qu'il continue à avoir de gros soucis.
De Éric Roux, lettre ouverte au président de la dissident. République, RPR très déçu dans la une de mars. Vous avez tout compris?
Non, c'est pas grave. Continue.
Comme émission intéressante, la nuit, il y a tout de même autre chose que les émissions sur la chasse ou les rediffusions de TF1.
Oui, c'est vrai.
Rectificatif, c'était Jean-Pierre Cotte.
Ah oui.
Qui avait vidé le signe du Parlement européen et non Jox.
Mais j'ai toujours pensé que Cotte était un clone de Jox. oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. J'ai une fois de plus dit une bêtise.
Les associations de polytransfusés ont-elles toujours l'intention de porter l'affaire devant des juridictions européennes?
Elles l'ont confirmé aujourd'hui.
Et la première question du recensement est, avez-vous des diplômes? Il faut répondre, bac à sable et bac à linge, pour ce fichier de l'INSE.
Voilà. Il y a un petit concours entre les auditeurs pour trouver la meilleure idée de réponse à donner à un sondeur.
C'est tout.
Bon,
pour le moment, j'ai le premier paquet.
C'est maintenant qu'on va avoir beaucoup de questions.
Et je vous dirai que vous êtes sur Radio Courtoisie, émission de Serge de Bekech. C'est tout.
Très bien, merci. Question très Daniel, donc vous avez
Moi, je peux...
Oh bah, vous faites comme vous voulez, vous pouvez rester avec nous. Vous avez peut-être besoin des services d'un...
Non, ce que je voudrais, c'est que vous signaliez...
On va le dire, bien sûr.
Les origines du bouquin.
Oui, bien sûr. Mais je voulais le faire à la fin, mais on peut le faire maintenant, comme vous voulez. Donc, c'est vrai qu'il faut donner l'adresse ou l'acheter, peut-être.
Ben oui, j'aime mieux.
Par ce que nous avons dit de ce livre, qui est fort intéressant. Donc, c'est Petit Goulag, aux environs de Petit Goulag. C'est édition André Figueras.
Comme toujours, on est jamais mieux servi que par soi-même.
Boîte postale 2843 75028 Paris CEDEX 01. Il y a même un numéro de téléphone.
Ah oui, si on veut.
Si on veut téléphoner pour embêter André Figueras.
Ça arrive de temps en temps.
01 42 96 52 16.
Voilà. Il est dans l'annuaire d'ailleurs. Oui, j'ai peur de rien.
Ça n'est pas un grand mystère. Donc, boîte postale 2843 75028 Paris CEDEX 01. Et c'est le prix, c'est 150 francs.
150, oui. Taxe compris.
Don Carlos ou. Non, Franco.
Franco.
On n'ose plus dire maintenant.
Voilà.
On doit bien trouver quand même d'enquête.
Eh bien, je vous quitte.
Alors, quittez-vous. Si vous n'avez pas besoin des conseils de Christian Trédaniel, vous avez tort, vous devriez écouter.
Eh oui, on ne peut pas tout faire, ni tout savoir.
Donc cette histoire du rebootement que vous publiez, l'histoire du rebootement, c'est au début assez surprenant parce qu'on a toujours, l'impression que le mot rebooteux, c'est un mot qui désigne une espèce de charlatan, une espèce de sorcier, plus ou moins arnaqueur. Et puis ce que vous nous dites, c'est que pas du tout, il s'agit d'une des techniques les plus anciennes, des formes les plus anciennes de la thérapie.
Oui, on peut même dire que c'est la technique première. En fait, sur le plan historique, évidemment, on ne peut pas situer exactement l'origine, mais on peut situer l'origine de l'intervention chirurgicale instrumentale, ou tout au moins, on peut la remonter au moins à 45 000 ans, puisque à 45 000 ans, on a retrouvé un squelette dans les monts Zagros, en Irak, qui présentait une amputation. Donc, s'il y a 45 000 ans, on était capable d'amputer, il faut dire qu'il y a 100 000 ans, on était capable de réduire une entorse ou une luxation.
Une amputation chirurgicale.
Une amputation chirurgicale, une amputation instrumentale, n'est-ce pas ?
Comment le voit-on ?
On le voit, c'est comme pour les trépanations, puisqu'à partir de 10 000 ans, si vous voulez, on trouve de nombreuses trépanations qui sont du reste très bien faites, et on a la certitude que les sujets, on va dire les sujets, parce qu'on ne sait pas si c'était des malades ou si c'était des pratiques initiatiques, mais les sujets ont survécu. Parce qu'il y a une calcification autour du trou, en quelque sorte, pour une trépanation. Alors, il y a un cal osseux donc, qui se forme, et ce cal osseux ne peut se former que sur un être vivant. C'est-à-dire que si on trépane quelqu'un et qu'il en meurt, évidemment, il n'y a pas de cal osseux. Donc, on a la certitude, là, la même chose pour l'amputation du bras. Moi, il y a quelques petites discussions à ce sujet-là. Mais enfin, bref.
Mais en tout cas, ça prouve qu'on pratiquait la chirurgie au début de l'humanité, mais ça prouve pas qu'on pratiquait le rebootement.
Ben, c'est-à-dire qu'on pratiquait le rebootement forcément, parce que dès qu'on a l'instinct, si vous voulez, ou la sensation du mal, on porte la main là où est le mal. Et même encore à l'heure actuelle, si vous donnez un coup de marteau sur un doigt, immédiatement vous prenez votre doigt et vous le serrez pour essayer d'isoler la douleur, etc. Bon, à partir du moment où on se rend compte que dans certains faux mouvements, certains problèmes, n'est-ce pas, le fait d'agir sur l'articulation supprime la douleur, bon, est déjà un premier pas. Et puis, lorsque l'on vient en société, si on demande à son voisin, n'est-ce pas, de le faire à sa place, c'est effectivement le premier acte médical qui est un acte chirurgical médical, surtout.
Quand on tape sur le doigt avec un marteau et qu'on fait le tour de la pièce à cloche-pied en criant, est-ce que c'est une espèce de démarche chamanique pour soigner le mal ?
Non, absolument pas, là, c'est une démarche réactionnelle.
Donc, au fond, le premier rebooteux, c'est le gars qui s'est frotté le tibia après avoir mis un...
Non, qui s'est fait frotter, qui s'est fait...
Ah oui.
qui s'est fait remettre une articulation, qui s'est fait bouger une entorse, remettre une entorse par son voisin, n'est-ce pas, ou une luxation, c'est-à-dire qu'il s'était démis un doigt et qui a fait tirer sur son doigt par son voisin. Et ensuite, dans la procédure... dans la progression avec la conceptualisation, le développement de la conceptualisation, le développement de l'outil, etc. L'outil a été le prolongement de la main, on en est arrivé à la chirurgie instrumentale. Et la pratique des deux a été liée simultanément du reste très longtemps, y compris à l'école de Causse, par Hippocrate, qui était chirurgien et pas médecin, évidemment, qui a été récupéré par les médecins un petit peu tard.
Bon. Est-ce que, justement, est-ce que c'est universel ou planétaire ? Est-ce que vous constatez l'existence de, voilà. De méthodes
Alors, c'est le deuxième point, c'est le seul mode de traitement qui soit universel. C'est-à-dire qui remonte à la plus haute nuit des temps et qui soit universel. C'est pratiqué dans toutes les civilisations, sur tous les continents et à toutes les époques. Et contre l'adversité, n'est-ce pas ? Et encore une fois, simultanément à la chirurgie. Du reste, le chirurgien instrumentaliste est confondu avec le chirurgien le rebouteux en France, ou défini par rapport au rebouteux, et le rebouteux défini par rapport au chirurgien jusqu'au XVIIIe siècle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le médecin, en fin de compte, n'a jamais existé. Toute la médecine, tous les progrès médicaux sont dus à la chirurgie, à l'anatomie. Mais les médecins sont complètement en dehors de l'histoire. C'est la récupération de 1792 qui fait qu'ils se placent maintenant comme les initiateurs et les maîtres à penser en matière de soigner et de guérir.
Enfin, toute la chimiothérapie, quand même. C'est
non, bien. Mais la chimiothérapie, d'abord, c'est l'affaire des chimistes, surtout, et récupérée par les médecins. Et ensuite, ça, en quelque sorte, ça. C'est une recette, en fait, supplémentaire qui marche ou qui ne marche pas, comme les autres recettes. Vous avez un certain nombre de recettes, très peu nombreuses. Il y aurait 8, 10, 12, on peut en mettre 15 ou 20, pour celui qui est un partisan acharné, n'est-ce pas ? 20 recettes qui fonctionnent, mais c'est pas une méthode, c'est pas une logique, c'est pas une science, n'est-ce pas ? C'est une addition de recettes et de combines. C'est ça le problème. Alors que du côté chirurgical, il suffit de savoir que le premier traité quand même d'anatomie remonte à Hatotis, fils de Ménès, fondateur de la première dynastie pharaonienne.
Mais est-ce que ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que... Donc les premières méthodes thérapeutiques, c'était des méthodes, vous nous dites, chirurgicales ou de manipulation lourde.
Et alors, on connaissait quelques médicaments, entre guillemets, c'est-à-dire quelques herbes qui faisaient qui avaient un effet, en quelque sorte, qui purgeait, qui constipait, quelques herbes dont on se servait, dont les chirurgiens se servaient, du reste, sans avoir l'impression de faire de la médecine.
Et est-ce que ça veut dire, donc, que... Tous les traitements efficaces jusqu'à une date récente ont été liés à des pratiques, agressives, comme la chirurgie ou comme la manipulation.
Il y a eu différents stades dans l'agression. C'est-à-dire que la médecine, alors la véritable médecine, celle que l'on appelle médecine magique, n'est pas, c'est d'abord... appuyé en fait sur des drogues qui étaient particulièrement repoussantes d'aspect, c'est-à-dire les excréments, le crapaud pourri, la bave de ceci, enfin, etc., etc., en faisant bien connaître de quoi il s'agissait, et pour montrer qu'avec ce produit, on pouvait tuer le mal avec un grand M, n'est-ce pas ? Bon, ceci alliait des formules, en particulier à Rome, à des formules magiques, puisqu'on réduisait même les luxations par formules magiques. Alors vous voyez jusqu'à quel point on allait dans l'utilisation du remède placebo. C'est ça qui est intéressant à comprendre, du reste, c'est cette histoire de remède placebo. Alors donc, au départ... c'était du reste, Montaigne nous en donne des descriptions particulièrement imagées, en fait. Hein, c'était, on peut dire, du charlatanisme intégral. Bon, si on arrive au XIXe siècle ou au XXe siècle, tout au moins au début du XXe siècle, on a pu ces facteurs excrémentiels, si vous voulez, en fin de compte, dans la pharmacopée. Puisque, je vous dirais, l'Emery, par exemple, qui est le plus grand pharmacologue, médecin pharmacologue Louis XIV, Louis XV, donc, pour soigner les maux de gorge, recommande l'excrément humain réduit en poudre à la dose de 2 drachmes.
Ça s'appelle de la poudrette, d'ailleurs.
Voilà, ça s'appelle de la poudrette, parce qu'il est, paraît-il, émollient et, bon,
Mais c'est vrai que quand
on un exemple parmi tant
d'autres, on va être traité comme ça, on a beaucoup moins envie de
tout rentrait dans le même. Tout rentrait dans l'ensemble, n'est-ce pas, que ce soit le sang menstruel, que ce soit les excréments, que ce soit la bave de crapaud, leur mettre contre la peste, le médecin Louis XIV, et bien ma foi, c'est qu'il fallait faire de pourrir un petit crapaud suspendu, n'est-ce pas, qui était rongé par les vers, prendre l'ensemble ensuite, le réduire en... Le mélanger avec de la cire et se le pendre sur la poitrine, et on était protégé de la peste, ou on était guéri de la peste. C'était la dernière trouvaille, en fait.
Ça, tout ce que vous nous racontez, en fait, ce sont des pratiques que l'on attribue aujourd'hui à ceux qu'on appelle les rebouteux.
Ah non, absolument pas. Leur bouteux ne se sert. Alors, il faut surtout pas confondre. Leur bouteux ne se sert que de ses mains. Leur bouteux, c'est un chirurgien qui ne se sert pas d'instrument. Leur bouteux ne se sert jamais d'instrument, il ne se sert que de ses mains, il n'emploie aucun appareil et il ne donne aucun médicament. C'est clair, net et précis. Ce n'est pas un guérisseur, ce n'est pas un magnétiseur, ce n'est pas un montreur d'ours, ou ce n'est pas un médecin, c'est un chirurgien. Bon, et le prolongement du rebouteux, c'est le chirurgien qui, du reste, est resté un chirurgien empirique au même titre que les rebouteux, on peut dire pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle. On peut même dire jusqu'à la Restauration, puisque le chirurgien de Louis XVIII n'avait jamais suivi d'études de chirurgie. C'était le père Élisée, qui était lui aussi un chirurgien empirique, en quelque sorte.
Quelles sont aujourd'hui les vous nous avez donné les caractéristiques du rebouteux aujourd'hui. Un rebouteux, c'est un chirurgien sans instrument, mais quelles sont les limites de
ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, le rebouteux était en voie de disparition. C'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour essayer de le réhabiliter, donner une existence, disons, au rebouteux, qui a été... Le rebouteux et la matrone étaient la base de l'organisation sanitaire, en fin de compte, en France.
La matrone, c'est celle qui s'occupait des accouchements,
bien sûr, parce qu'il y avait un rebouteux par canton, il y en avait à la cour des rois, c'est-à-dire Louis XIV a eu 8 rebouteux. Le premier rebouteux que l'on connaisse, un dénommé Tahureau, était sous Henri IV, il était appointé, il avait les mêmes gages, donc, que le chirurgien du roi. Et j'ai la liste de tous les rebouteux pris dans les comptes donc de la royauté, en quelque sorte, hein, de la France, dans les comptes de la France, où on voit que tous ces gens-là étaient M. de Cuvilliers, par exemple, qui a soigné après X échecs des médecins de l'époque, Madame de Laguette, et qui s'est rapporté dans ses mémoires, bon, était rebouteuse, bailleule, c'est la même chose, c'est donc le synonyme bailleule de Louis XIV, du roi. Donc ce n'était pas uniquement dans les campagnes, c'est dans l'aristocratie, et c'était dans la haute société pratiquée soit par des paysans, soit par des aristocrates, soit par des bourgeois, suivant la classe dans laquelle on se trouvait. Les seuls inexistants dans tout ça, c'était les médecins.
Mais à quel moment commence à décliner l'image du rebouteux?
C'est pas l'image du rebouteux qui décline, c'est la pression, en fin de compte, plus l'évolution technique, en fin de compte, qui tue le rebouteux. Parce que le rebouteux s'occupait, d'une manière, bien sûr, de beaucoup d'histoires organiques et de maladies générales qu'il attribuait à des descentes d'estomac, même si elles n'existent pas, ça n'a pas d'importance, à des descentes d'estomac, des problèmes de vésicules qu'il vidait, etc. Bon, mais son rôle principal, c'était de réduire les fractures. Or, l'arrivée de la radioscopie et ensuite de la radiographie a été terrible pour les rebouteux, puisque ça a mis à la disposition donc des chirurgiens sortis des études de médecine, seulement depuis 1792, enfin à partir de 1900 pour la radiographie, n'est-ce pas, un moyen où on pouvait voir exactement ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin de poser la main, de sentir, d'imaginer le déplacement pour le réduire. Alors bon, il y a d'abord la radiographie. En plus, il y a eu l'anesthésie. Alors, si bien qu'un chirurgien pouvait réduire une fracture sans faire souffrir le patient et en ayant vu donc exactement ce qui se fait. Alors ça a apporté un premier coup fatal, en fin de compte, au rebouteux, tout au moins dans l'histoire de la réduction des fractures. Il ne faut pas oublier qu'à la fin du XVIIIe siècle, les rebouteurs monopolisaient 75% de la chirurgie en France, n'est-ce pas ? Et que les chirurgiens, eux, En fin de compte, vous aviez les barbiers ou les successeurs des barbiers qui ouvraient les abcès, qui retiraient les corps étrangers, qui faisaient quelques petites interventions tout à fait légères. Et les quelques autres chirurgiens qui faisaient des interventions profondes, par exemple comme celle de la pierre, étaient des chirurgiens itinérants, c'est-à-dire qu'ils n'habitaient pas dans le pays. Ce sont des gens qui passaient une fois par mois, une fois tous les trois mois, en se baladant, où on les voyait ou on ne les voyait pas. Alors donc, on ne pouvait pas avoir affaire à eux d'une manière constante.
Et aujourd'hui, alors, quelle est la situation du rebouteux d'abord? Est-ce qu'il en existe toujours?
C'est-à-dire qu'il n'y a presque plus de rebouteux, disons, à l'heure actuelle, et ça a été remplacé, enfin, justement, on a repris, c'est aussi la conclusion, si vous voulez, de mon livre par rapport à l'éthiopathie, c'est-à-dire qu'on a repris toutes ces méthodes ancestrales qui remonte au dieu donc Asclépios, puisqu'il est représenté en sa première stèle en train de faire une manipulation vertébrale, n'est-ce pas? Bon, on a repris ces techniques et on les a replacées dans un cadre d'abord écrit, ce qui n'avait jamais été fait, puisqu'il n'y a aucun ouvrage sur la question, ni d'histoire, ni sur les techniques. Donc on l'a replacé sur le plan écrit et ensuite donc sur un plan scientifique, avec donc une explication, une logique. Et on a redonné à cette méthode d'agir le nom d'éthiopathie, c'est-à-dire c'est d'abord un diagnostic, la recherche de la cause fondamentale du mal, de la douleur, de la souffrance, etc. Et ensuite l'action manuelle qui va aller normaliser, restaurer la structure, cause de la douleur ou du déficit de santé.
Christian Tadaniel, vous avez écrit l'histoire du rebootement, mais vous-même, vous êtes éthiopathe. Hein,
Absolument, oui.
On peut éventuellement entrer en contact avec vous, et si on veut en savoir plus, on peut lire votre livre, d'une part, qui a été publié, je le rappelle, chez Guy Tadaniel, qui est votre frère.
Mon frère, oui.
C'est commode aussi, d'avoir
un frère.
C'est un bon livre, il est beau, il est bien illustré, et on apprend beaucoup de choses dedans. Moi, je dois dire que j'étais assez étonné de découvrir... Des informations surprenantes et même des photos très rigolotes comme la photo de ce traitement d'une luxation de l'épaule on voit quatre gaillards qui s'occupent de l'épaule. S'il lui arrache pas le bras, probablement qu'il sera sauvé. Ça avait l'histoire du rebootement à l'éthiopathie de Christian Tadaniel. Et pour vous donner une idée du sérieux de ce travail d'historien, parce que Christian Tadaniel est à la fois, je le répète, éthiopathe, praticien plutôt, et historien. Et pour vous donner une idée du sérieux, j'indiquerai que la préface a été rédigée par Jean Tullard, qui n'a pas l'habitude de prêter sa plume à n'importe qui. Voilà, histoire du rebootement chez Guy Tadaniel, de Christian Tadaniel, dans la collection Avenir des sciences. Merci beaucoup.
Merci.
Oui. On va poser la question tout de suite, on écoutera de la musique après. Non, on n'a pas le temps. Après la coupure.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech, dirigé successivement par Serge de Bekech, assisté de Victoria, et par Daniel Amiche, assisté de Marie, du 10 mars 1999. Diffusé dimanche 28 décembre 2014 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.
Des questions pour Christian Tadaniel?
Alors, un confrère ostéopathe est consterné par ce qu'il entend. La chirurgie n'a pu faire des progrès que grâce au progrès de la médecine. Exemple, les greffes ne peuvent marcher que parce qu'on a trouvé les substances anti-rejet. Attendez, je vous dis tout. Le rebouteux ne risque-t-il pas d'avoir des problèmes avec la justice pour exercice illégal de la médecine? Pourrait-on nous préciser que les premiers chirurgiens étaient des barbiers parce qu'ils savaient manier le rasoir? Pouvez-vous nous parler des remèdes d'Hippocrate? Pas d'accord. Le rebouteux manipule les articulations, remet en place les luxations, renforce la musculation. Leurs enfants sont souvent devenus des kinés. À la campagne, après qu'une vache a eu un membre démis, le vétérinaire nous a adressé au rebouteux. Voilà. Et puis alors, vous, oh, un malhonnête intellectuel, les premiers descendants des rebouteux sont les kinés, les ostéopathes et enfin les éthiopathes. Oui, je peux pas lire.
Oui, ça, effectivement, c'est...
Des pustules du... utilisé dans le traitement du cancer. L'extrait de pustule du crapaud, ça y est, je le tiens. L'extrait de pustule du crapaud a été utilisé dans le traitement du cancer. Voilà, c'est tout. Et attendez, les médecins physiothérapeutes n'ont pas étudié la phytothérapie. Ce sont les pharmaciens qui ont suivi des cours approfondis. Il faut le savoir. À propos d'un médecin donnant des cours à la faculté de médecine à Paris. Voilà.
Oui, d'abord, premièrement, sur le problème d'Hippocrate, je crois que c'est le plus intéressant. Après, s'amuser à parler des ostéopathes ou des kinésithérapeutes.
C'est des querelles de boutique, ça.
Oui, bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour Hippocrate, d'abord, l'école de Cos était directement descendante en filiation directe avec Esculape, donc avec le fils d'Esculape, chirurgien qui a pratiqué la chirurgie donc pendant la Podalyre, donc qui a pratiqué la chirurgie pendant la guerre de Troie. Bon, donc c'était une école de chirurgiens. Bon, alors le serment d'Hippocrate, d'un autre côté, interdit la chirurgie. Hein, c'est le septième paragraphe du serment d'Hippocrate. Alors c'est un petit peu bizarre de voir un serment qui serait d'Hippocrate, alors qu'Hippocrate interdisant la chirurgie, donc la pratique de la taille entre autres, alors que Hippocrate lui-même aurait écrit deux livres de chirurgie. Il y a quelque chose qui ne va pas bien là-dedans. Alors en fait, le serment d'Hippocrate n'est pas d'Hippocrate, il est de Pythagore ou de l'école pythagoricienne, qui elle est effectivement une école de médecine. C'est-à-dire qu'il a ramassé toutes les remèdes de bonne femme qui traitaient à droite à gauche les formules magiques. Et qui en plus y ajoutait la science des nombres, de façon que ça soit un peu plus divinatoire. Ça donnait son apothéose, donc à Rome, au 2e et 3e siècle avant. Hein. Bon, et donc Hippocrate, qu'est-ce qu'a fait Hippocrate? Ben, Hippocrate, il a simplement mis en honneur l'hygiène, le régime, la gymnastique, la chirurgie, dans la mesure où vous voulez, et la chirurgie non instrumentale, qui était pratiquée simultanément, en quelque sorte, déjà. Et puis, il a réduit au minimum les médicaments actifs, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de produits qui ont un effet, disons, positif. Et il ne faut pas le nier, il ne faut pas être sectaire, n'est-ce pas ? Il faut être très large d'esprit. C'est donc l'œuvre d'Hippocrate. Du reste, l'école de Cnide, c'était la même chose, puisqu'elle, elle ne descendait pas de Podalyre, mais de Macaon, qui était le deuxième fils d'Esclépios. Et c'était aussi une école de chirurgiens.
C'était déjà une famille.
Oui. Et qui ont donné ensuite Hérophile et Erasistrate, les deux anatomistes fondamentaux de l'histoire de la chirurgie.
Alors, tout ça, vous avez un salut très amical que je vous passe. Oui.
On vous demande aussi si vous avez parlé, avez-vous parlé des chiropracteurs? Quelle est la différence avec les ostéopathes?
Mais là, on va peut-être être parti pour toute la nuit, là,
Alors, très rapidement, je veux dire que les chiropracteurs ont été les premiers à décrire les manipulations, disons, d'Aidé Palmer, pas le fils, mais d'Aidé Palmer, à la fin du siècle dernier, a décrit les techniques manipulatives vertébrales, a été le premier à le faire aux États-Unis. Alors que c'est Urbrandt, en France, en Suède plus exactement, qui, avant, 20 ans avant, a décrit les premières techniques gynécologiques de manipulation interne de l'utérus, etc. Bon. Et les chiropracteurs sont restés aux manipulations vertébrales. Bon, et je pense qu'il faut une unité généralisée pour avoir une efficience. Bon, alors quant à Steele, bon, ben, il a répandu l'ostéopathie après une révélation, après que Dieu lui soit apparu au mois de juin 1872, je crois. Il faisait disparaître les goîtres en 2 minutes, repousser les cheveux en 7 jours. Les ostéopathes américains sont des médecins, des sous-médecins, disons, qui pratiquent uniquement
la drogochimie et qui n'ont strictement rien à voir avec les manipulations vertébrales.
Mais est-ce qu'ils font pousser les cheveux en 6 jours parce que
ça, j'en doute. J'en ai toujours douté, mais enfin...
C'est vrai que vous n'avez pas besoin de ça, vous.
Non, j'ai pas besoin de ça.
Merci, Christian Trédel. Voilà. Alors, je rappelle votre livre « Histoire du rebootement », qui est un livre sérieux, historique, préfacé par Jean Tullard, aux éditions Guy Trédaniel, « Avenir de la science ». Et je rappelle également le titre du dernier Figueras, « Aux environs de Petit Goulag », qu'on peut commander en envoyant la somme de 150 francs à André Figueras, boîte postale 2843 75028 Paris, CEDEX 01. Les coordonnées de Christian Trédaniel, elles seront sur le Minitel du Libre Journal, 3615 Libre Journal, avec toutes les autres informations, toutes les autres adresses que vous pouvez souhaiter. Si vous préférez utiliser non pas le Minitel, mais votre système internet, votre ordinateur, Arnaud Maillé m'a envoyé l'adresse, ce qui prouve qu'il est un garçon bien gentil. C'est libre-journal.com. On peut pas faire plus simple. Hein, avec toute la série des HTTP, www, patin couffin, etc. Librejournal.com.
Est-ce que je peux dire les annonces?
Non, on va pas avoir le temps. Ou alors, il faut voir avec Cécilia, dont à laquelle je vais laisser la parole.
Je l'ai fait. Alors tout de suite, vous voulez bien? Merci.
Je ne suis pas juste, c'est Daniel ensuite, mais...
Oui, comme il n'est pas là, alors on va prendre des initiatives hardies. Alors, je vous annonce que la dédicace des livres Saint-François d'Assise et Chronique de l'âme, Alphonse de Chateaubriand, par Benoît Mancheron, se feront le samedi 6 mars à la librairie Saint-Nicolas de 15h à 19h. Ensuite...
Samedi 6 mars, c'est ce qu'on appelle le futur antérieur. Non, mais ça fait rien. Allez-y, continue.
Oh, je suis bête. Je vais me dire tout à l'heure. Alors, bon, celui-ci, c'est pareil, c'est le futur antérieur. Le jeudi 11 mars, ça va, je suis dans les temps. Non, c'est pas le jeudi, c'est le vendredi 12 mars à 20h. La tradition du Bouddha, selon la voie tibétaine, avec le lama Denis Tendrup. Ça se passe au...
Pas confondre avec le Lama de Long, bien entendu.
Salle Chaptal, 4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e. Participation aux frais 40 francs. Tarif réduit et adhérent 25 francs. Libre journal. Le samedi 13 mars, à la librairie nationale 12 rue de la Sourdière, Paris 1er. De 14h à 19h, Guillaume Faye, ou Fay, qui dédicacera son dernier ouvrage, L'archéofuturisme. Et puis, le samedi 13 mars, à partir de 15h, Monsieur Henri de Fersan dédicacera le racisme anti-français et anti-chrétien, rapport 1998, ainsi que Monsieur Jean-Guy Moron, qui signera souvenir d'un J2, un gamin, durant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à 19h.
Où ça?
Eh ben, je l'ai dit tout à
la licorne bleue, il faut le dire.
C'est la licorne bleue, pardon, oui. Librairie 3 bis rue Jules Vallès. Et puis, ben, ça doit être la dernière, non? Ben non, ça c'est le 6 mars, à nouveau.
C'est tout, c'est pour ça que vous avez dérangé?
Ben oui, mais écoutez donc. Hein.
Merci, Mme Victoria.
On aurait été les liqueurs fortes, hein, Victoria.
Voilà.
Non, mais il me fatigue parce qu'il me bouscule. Alors moi, après, je ne sais plus où j'en suis.
Je laisse la parole à...
Je ne ferai plus l'annonce, ce sera M. Beckett qui le fera.
Oh, qu'est-ce qu'elle boudine. Je laisse la parole à Cécilia et à Daniel Amiche. Et je vais emmener Victoria boudiner ailleurs.
Oh,
bonne semaine, que Dieu nous garde.
Quelle époque.
Eh bien, bonsoir. Daniel ne m'introduit pas. Bonsoir aux auditeurs.
Oh, bonsoir Cécilia.
je vais commencer. Ben, je ne suis pas habituée parce que vous me laissiez filer comme ça toute seule.
Si,
je vais commencer par quelques annonces. Elles sont un petit peu nombreuses. Je vais essayer d'être un peu brève parce que c'est le printemps et tout commence à bouger. Tout d'abord, au point de vue, en art floral japonais, pour célébrer le 50e anniversaire de la création du bureau de Kyoto de l'Association japonaise des Nations Unies et le 40e anniversaire du pacte d'amitié entre Kyoto et Paris, du mercredi 17 au vendredi 19 mars, de 13h à 17h au palais d'UNESCO, un certain nombre de manifestations, spectacles de danse, expositions diverses, peintures et calligraphies et surtout arrangements floraux par Noriko Sasaoka, j'espère que je prononce bien, et cette démonstration sera précédée par des démonstrations de toutes les écoles d'Ikebana représentées à Paris, Ikenobo, Ohara, Sojetsu et Ichiyo. Donc de 11h à 15h le 17 mars au palais d'UNESCO, dans le hall de l'UNESCO, du palais de l'UNESCO. Nos amis de... Ah non, alors, attendez, je vais tâcher de procéder par date. Le vendredi 19 mars, inauguration de l'exposition Promenade, le printemps des bulles, première couleur, première senteur, au Parc Floral de Paris. L'inauguration a lieu le matin et je pense qu'à partir de l'après-midi, du 19 mars au 18 avril 1999, je pense que voilà encore une très jolie promenade à faire au Parc Floral de Paris. Nos amis de l'atelier Saint-Luc nous rappelle que leur exposition, nous en avions déjà parlé, a lieu le 20 mars à partir de 17h30 jusqu'à 19h30, le dimanche 21 et le lundi 22, toute la journée. Il n'y a pas plus de précision, je suppose que ça commence à peu près à l'heure des messes et que ça se termine de même. C'est dans la crypte de Saint-Nicolas sur le thème pèlerins et pèlerinages d'hier et d'aujourd'hui et elles ont l'honneur et la joie d'accueillir en invité Marcella Maltais, qui avait beaucoup intéressé nos auditeurs un soir, ce peintre canadien qui est tout à fait intéressante, et puis une jeune portraitiste qui se nomme Olivia Buess. Voilà, donc Saint-Nicolas du Chardonnay le 22. Alors encore en art floral japonais, le jeudi 25 mars, à la salle Aymar. Alors là, je donne l'adresse précise, 23 avenue de Friedland. C'est dans le 8e et c'est au métro RER Étoile. Une démonstration d'art floral japonais par Yaeno Noda, qui a pour titre, un très beau titre, Le cœur, point de suspension, c'est aussi une fleur. Et on peut retenir sa place, qui est à 50 francs, au 01 39 75 80 70. C'est Ikebana International France qui organise cela. Je répète, 01 39 75 80 68. Alors, dans un tout autre genre, les journées portes ouvertes de TECOMA. TECOMA, c'est le centre de formation de technologiques et commerciales de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et qui nous intéresse particulièrement parce qu'ils ont une filière verte très importante, horticole et fleuriste. Nous avions déjà reçu leurs élèves, entre autres. Donc, 3 jours de journées portes ouvertes pour informer les parents, les futurs élèves et éventuellement les chefs d'entreprise. Les 26, 27 et 28 mars prochains, ça se tient donc à TECOMA, à Jouy-en-Josas. Je donne là le téléphone auquel on peut se renseigner aussi. 01 39 67 12 00. 01 39 67 12 00. Et pendant ces 3 jours, outre les renseignements pratiques pour ces études et les filières sur lesquelles elles débouchent, il signale qu'il place dans les 6 mois suivant la fin des études 92,5% de leurs élèves. Je crois que c'est assez attirant. Et des démonstrations d'art floral, entre autres, pour les futurs fleuristes, démonstrations, expositions et ventes des travaux d'élèves. Et le public pourra notamment s'informer sur la nouvelle formation préparant au BEP de maintenance de maternelle de Parcs et Jardins qui sera ouverte à la rentrée prochaine. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de parents et beaucoup de jeunes qui ne savent pas encore trop ce qu'ils vont devenir. Et alors là, très rapidement, parce que c'est un petit peu prématuré, mais je ne reviendrai que le 14 avril, les 9, 10 et 11 avril prochains, la traditionnelle fête des plantes vivaces à Saint-Jean-de-Beauregard de 10h à 18h. Fête dont notre invité de ce soir était l'une des vedettes l'an dernier avec l'atelier du parfumeur. Alors rapidement aussi quelques livres. Of All Flowers, alors que les auditeurs ne se laissent pas effrayer par ce titre anglais, c'est un livre trilingue, français, néerlandais et anglais. C'est le livre qui veut célébrer les 30 ans de l'association d'art floral de nos amis belges, dont nous avons reçu déjà des membres ici. C'est en très belle photo, c'est l'histoire de leurs 30 ans. Il y a des bouquets très classiques et des bouquets extrêmement modernes. Il a été réalisé sous la houlette, entre autres, d'Eliane Joski, qui est la très active secrétaire de la BFAS. Il coûte 300 francs. Il est publié par l'Anotera et pour la France, c'est la diffusion Vilo. On peut donc le trouver dans toutes les librairies.
Je peux dire qu'il est somptueux.
Il est très beau, très 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 somptueux, beau. Et oui. Alors cette couverture de Jonquille, c'est Printanier en diable.
Oui, c'est très beau.
Alors, un autre très très bel ouvrage, extrêmement lourd aussi, comme j'ai dû me garer loin, j'en sais quelque chose, qui s'intitule très classiquement Le Jardin. Il est de Terence Conran et de Dan Pearson. Alors Terence Conran, tout le monde le connaît en France, par Habitat, dont il fut le créateur, et les Coran Shop, excusez-moi pour l'anglais, mais il est anglais. Dan Pearson est un très célèbre paysagiste anglais, et ils ont associé leurs talents pour faire ce très très beau livre sur le jardin. Alors, on va se pencher un tout petit peu sur le sommaire, parce qu'il est, à mon avis, très passionnant et très complet. Il y a d'abord Les Jardins, un lieu de vie, c'est un petit peu leur manifeste à l'un et à l'autre. Ensuite, la façon de construire l'espace. Ensuite, la façon de choisir ce qu'on peut mettre dans son jardin selon l'espace dont on dispose et ce que l'on aime déjà. Et ensuite, une partie beaucoup plus technique sur les plantations, la façon de les faire, la façon de les entretenir. Et puis un guide des plantes. Alors, toutes les plantes se répertoriées par fiche. Les transitions et l'aménagement, c'est-à-dire les sièges, les accessoires, puisqu'il ne faut pas oublier que Terence Conran est quand même, après tout, aussi un décorateur. Et ensuite, des adresses utiles et des conseils techniques. Alors vraiment, préparer le sol, le calendrier du jardin, etc. Il est magnifique, il est illustré de photos superbes. Il y a même un jardin de senteur pour Jean-François Laporte.
Il est très lourd. Hein.
Il est très lourd et il est magnifiquement illustré de photos et de dessins. Et il coûte 198 francs chez Grün. Donc je trouve qu'il est très raisonnable vu la somptuosité de l'ouvrage. Et puis un tout petit dernier que j'ai choisi à cause de la présence de notre invité de ce soir, que je vais finir par présenter quand même, qui s'appelle Les parfums du jardin, 100 plantes pour parfumer le jardin, la maison et la cuisine. Alors la première partie est un mode d'emploi, la deuxième partie est une partie technique pour cultiver une centaine de plantes avec lesquelles on pourra parfumer sa maison, entre autres au moyen de pot pourri. Vous êtes un spécialiste, je crois, des pots pourris. Et puis, il y a un index très original, parce qu'après l'index général, il y a plusieurs index thématiques, c'est-à-dire qu'on peut choisir des plantes parce qu'elles poussent à l'ombre, des plantes pour leur couleur, pour leur saison. Et il est extrêmement pratique, et on le tient bien en main, très joliment illustré, et il ne coûte que 99 francs. Il est de Kateri Nuritsani, pardon, et c'est la maison rustique qui l'édite. Alors, nous en venons maintenant au sujet de notre de la présence de Jean-François Laporte, que nos auditeurs connaissent déjà bien, qui est parfumeur-créateur à l'enseigne du maître Gantier et parfumeur, qui vient nous parler, entre autres choses, de la renaissance de la violette, qui connaît un véritable regain de faveur après une éclipse. Bonsoir Jean-François Laporte.
Bonsoir. En effet, je suis maître parfumeur et gantier. Excusez le lapsus, et créateur de parfums, et il est certain que je n'ai pas encore mis dans ma collection un parfum à la violette, mais c'est un produit que je connais bien, et je pense qu'il serait intéressant, avant de parler de la violette, d'expliquer que la violette fait partie de toutes ces substances naturelles que l'on utilise en parfumerie, et qui ont fait les succès de la parfumerie de luxe française. Et toutes ces substances naturelles, très souvent on vous dit « Ah oui, mais la parfumerie maintenant c'est du synthétique, ce n'est plus du naturel ». Je crois que c'est une fausse pensée, parce que à la base de tout, il y a une formulation qui est faite d'un certain nombre de substances, en effet d'origine synthétique et d'origine naturelle, mais je pense qu'un produit de luxe aussi ne vit et n'a son côté séducteur et brillant que s'il contient des produits naturels. Car on ne peut pas donner autant de vie à une formule que lorsqu'il y a de très beaux naturels. Ces très beaux naturels, contrairement à ce qu'on peut penser, sont dans deux domaines de prix. Il y a bien sûr des naturels qui sont faciles à mettre dans une formule parce qu'ils ne sont pas trop chers. C'est le cas des notes espéridées, les huiles essentielles d'orange, les huiles essentielles de pamplemousse, les huiles essentielles de toutes sortes de fruits. Mais nous avons... Je m'excuse, mais c'est assez perturbant. Nous avons d'autre part des huiles essentielles de produits plus rares, comme des fleurs, dont la culture nécessite une grande main-d'œuvre. D'autre part, dont le ramassage des fleurs coûte fort cher en main-d'œuvre. À l'époque formidable de Grasse, où il y avait tous ces parfumeurs et toutes ces productions, la main-d'œuvre au XIXe siècle était moins chère que maintenant. C'est ce qui a perdu beaucoup à Grasse de son efficacité, parce que la main-d'œuvre actuelle coûte très cher et on ne peut plus cultiver les plantes rares à Grasse. Et la violette a suivi ce même chemin. Alors j'en viens enfin à cette violette. Cette violette est une plante qui est connue depuis, en France, le XVIe et le XVIIe siècle. C'est une plante médicinale. On faisait des décoctions de violette et des cataplasmes de violette. Des
cataplasmes contre
quoi ? Oui, contre des tas de maladies, maladies de peau, les problèmes d'infection. On ne savait, je crois, pas trop ce que guérissait la violette. D'une façon plus sérieuse, on a trouvé dans la violette des principes gélatineux qui ont permis de faire des actions sur le tube digestif d'une façon plus sérieuse. Mais toutes ces découvertes datent du XIXe siècle et ne sont pas les utilisations que l'on en faisait au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle.
Saint-Hildegarde von Bingen la connaissait, c'était la viola de Saint-Hildegarde. C'est déjà répertorié comme cela.
Tout à fait. Alors, comment la violette est venue en France ? La violette est venue à travers deux actions. D'abord, c'est une plante qui a été aussi bien aimée des gens pauvres que des riches, parce que dans les rues, les divettes achetaient des bouquets de violettes, et ces bouquets de violettes n'étaient pas très chers. C'était en général la variété violette de Parme, ou deux autres variétés qui avaient des noms un peu amusants, comme Victoria, liée certainement à la présence sur la Côte d'Azur de la reine Victoria, Princesse de Galles également, Exar, et bien d'autres variétés, je ne les citerai pas toutes. Toutes ces violettes avaient des couleurs assez foncées. La mode au XIXe siècle était plutôt aux violettes de couleur foncée ou à la limite de couleur parme. Mais les violettes très claires, les violettes blanches ou les violets pâles, ne plaisaient pas beaucoup. Donc, il y avait une nécessité pour les fleuristes de vendre ces violettes en bouquet. Donc, il fallait les produire. Il y avait deux régions en France où on produisait de la violette, la ville de Toulouse et les environs de Toulouse, et toute la région de la Côte d'Azur, c'est-à-dire Grasse, toutes les petites villes avoisinantes, Rochefort, Les Pins, Tourette, bien sûr, Tourette-sur-Loup, et puis également un peu plus loin, à Montpellier et à Hyères. Alors ces petites violettes, elles étaient nécessaires aux cultivateurs, parce qu'il avait très souvent des oliviers ou des orangers dans cette région, et c'était une manière de rentabiliser beaucoup mieux son sol, parce que la violette poussait très très bien sous ces plantes et sous ces arbustes. Parce que la violette a besoin de beaucoup d'eau, elle a besoin de pluie, elle a besoin d'humidité. Et puis c'est une fleur discrète qui cherche un peu l'ombre, qui craint le soleil.
C'est une fausse modeste.
C'est une fausse modeste.
Je pense.
Et dans son architecture botanique, quelque chose de tout à fait remarquable, c'est qu'elle a des feuilles qui sont légèrement enroulées de façon à garder l'eau de pluie ou l'eau d'humidité et d'éviter son évaporation. De même, sa fleur, elle est tuyautée et il y a une petite gorge au fond où peut rester une goutte d'eau. Enfin, voilà bien des qualités pour cette jolie fleur qui sait se protéger, qui sait aller sur les cœurs des divettes et embaumer les petits salons. Maintenant, dans la parfumerie, qu'est-ce qu'on en a fait ? Bien, il est certain que toutes les fleurs n'étaient pas vendables. On faisait des bouquets de 80 à 120 fleurs à peu près, et les bouquetières, c'était des jeunes femmes qui travaillaient du matin au soir pour un tout petit salaire. On expédiait ces violettes à Paris, Et elles étaient vendues assez chères à Paris lorsqu'elles allaient chez les grands fleuristes, mais il y avait aussi des bouquets plus modestes qu'on vendait dans la rue. Il est resté d'ailleurs une petite tradition à Paris. Il y avait encore il y a quelque temps au Palais Royal, devant le théâtre de la Comédie Française, une jeune femme qui vendait des violettes. Et comme ces violettes étaient certainement des hybrides importés, elle les parfumait avec un vaporisateur de parfum à la violette. Et ça faisait partie du folklore. Je l'ai surprise un jour en train de pulvériser. Il y avait des fleurs qui n'étaient pas vendables. Ces fleurs, en général, étaient utilisées pour la parfumerie. Fleurs très fragiles qu'il fallait ramasser le matin, sans soleil. Il fallait immédiatement les traiter, sinon elles perdaient leur parfum. Le parfum partait très très vite. On a utilisé d'abord les techniques de l'enfleurage, qui consiste à étaler sur une mince couche de graisse, de pommade, ces fleurs. Donc on a des châssis dans lesquels on met ces plantes, ces fleurs, et on superpose les châssis les uns sur les autres de façon à se confiner la fleur avec la graisse. Et ces châssis, qui sont rectangulaires, qui ont environ 30 cm sur 40, et ont une épaisseur de 10 cm environ, vont permettre d'obtenir une graisse que l'on va distiller et qui contiendra des traces de parfum de violette. Donc, ramassage coûteux, ensuite traitement coûteux, conduit à des prix faramineux de l'essence, ou plutôt de l'huile essentielle de violette. C'est environ 80 ou 100 000 francs le kilo, ça n'a plus de prix. Et je ne sais même pas si on fait encore des huiles essentielles de fleurs. Par contre, la feuille est toujours utilisée. La violette était très sensible à l'araignée rouge. Et pour protéger cette plante de l'araignée rouge, on ramassait les feuilles. Donc il fallait, après le ramassage des feuilles, bien sûr, utiliser ces feuilles pour la parfumerie. On distillait ces feuilles et on obtenait là une huile essentielle de feuilles de violette, qui est tout à fait extraordinaire, qui a une odeur profonde, un peu âcre, verte, très chaude, et qui, dans les parfums, donne des résultats extraordinaires. Là aussi, c'est encore assez cher. Tout ceci s'est bien raréfié, et il n'y a plus beaucoup de producteurs de violettes dans la région de Tourette. Il y en a encore un peu. On essaie de redémarrer.
Ils avaient leur fête le week-end, pour parler français, n'est-ce pas, dernier ?
Oui,
des chars décorés. C'est cela. De violettes, pas uniquement de violettes.
Mais enfin, ils font des efforts justement pour essayer de réhabiliter cette fleur chez les fleuristes et puis peut-être de garder une tradition dans leur village. Je crois que c'est très important.
Moi, je voulais vous poser une question sur la violette. Parce que bon, je ne suis pas un perdreau de l'année. Donc, autrefois, quand j'étais enfant et qu'on allait chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux, il y avait toujours un certain nombre de litres d'eau de Cologne, enfin d'eau de toilette, pour faire des frictions. Il y avait toujours à l'époque de la violette. Il y avait chypre, violette, ambrée, etc. Et tout à coup, ça a disparu. Alors, c'est vraiment une question de prix ou c'est une question de mode ?
Une question de mode. Vous savez, les frictions, à l'heure actuelle, ça existe avec des produits cosmétiques qui permettent d'améliorer le cuir chevelu ou éviter les pellicules. Mais toutes ces frictions qui étaient dites naturelles n'existent plus beaucoup. Mmh. Alors, il s'agissait non pas d'une friction à base de violette, mais avec un parfum dit de violette, c'est-à-dire un ersatz. Parce que très vite, l'industrie de la chimie s'est penchée sur le problème de la violette et on a découvert très rapidement des produits de remplacement. Il y a une molécule dont le nom est un peu barbare, le lyonone, qui est une molécule chimique qui a trois isomères, alpha, bêta et gamma. Et cette molécule a la possibilité de donner, d'une façon très curieuse, c'est un petit phénomène chimique curieux, quand vous sentez ce produit chimique pur, il a l'odeur de cèdre. Et quand vous le mettez dans l'alcool avec une grande dilution, il a l'odeur de violette. Et alors c'est ce produit qui sert parfois, dans certains parfums, à donner l'illusion de la violette. C'est un produit très utilisé en parfumerie, mais qui a toutes ses qualités.
Alors, vous êtes rassuré sur votre...
Bah oui, non, voilà. Parce que moi, je trouve que c'est une odeur tout à fait délicate. Surtout celle des violettes de Parme, parce que nous avons la chance d'accueillir dans le studio le prince Rémy de Bourbon-Parme.
Donc... Ah, ça sent très bien.
Il connaît ça par cœur.
Et alors, donc, la mode de la violette donc, revient, et on dit qu'en potée, parce qu'on les vend aussi en potée, les meilleures ventes, ce serait pour la Saint-Valentin et la fête des grands-mères. qui avait lieu dimanche dernier.
Cécilia, parlez bien dans
Pardon,
le micro.
Je regarde mon invité.
Ah oui, mais ne regardez plus.
Et je me souviens, nous avions reçu ici Patrick Diver il y a, je crois, 2 ans. Il avait fait peu de temps auparavant une démonstration d'art floral à la SNHF, à la Société Nationale d'Horticulture. Il avait offert un bouquet de violettes à tous les spectateurs. Il était monté à travers les gradins, les distribuer. Et alors, on peut annoncer, enfin, on peut rappeler à nos auditeurs que la confrérie de la violette est née ou a revécu, je ne sais pas comment dire, en novembre 97 à Toulouse.
C'est possible, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de cette confrérie. Ce que je sais, c'est qu'à Toulouse, la violette a gardé un sens de plante traditionnelle. En particulier, on avait fait de la confiserie à base de violette, c'est-à-dire qu'on ramassait les feuilles de violette et on les trempait dans un sucre qui était légèrement coloré avec un produit qui lui donnait une couleur violette. Et ça, c'était une utilisation. Il y a eu aussi une utilisation pour faire des parfums, car la violette de Toulouse avait des qualités comme la violette de Montpellier, d'Hyères ou de Grasse.
Et votre présence à Saint-Jean-de-Bourgard l'année dernière avec l'atelier du parfumeur autour justement de la violette?
Je pense que ce n'était pas l'atelier du parfumeur, comme vous le dites. C'était la présentation des différents événements qui sont liés en parfumerie à la violette. C'est-à-dire que nous avons présenté une chose qui était assez rare, c'est-à-dire un extrait de fleur de violette, une huile essentielle de fleur de violette et une huile essentielle de feuilles de violette. Et autour de cette présentation qui permettait de découvrir olfactivement la qualité de ces deux produits, nous avions présenté toutes les étapes de la culture de la violette et tous les moyens d'extraction de la violette.
Et alors, à l'origine de cette confrérie de la violette, il existait d'abord une association qui s'appelle Terre de Violette, qui est à Toulouse. Et alors, dans cette association, on trouve évidemment plusieurs pâtissiers, un droguiste, un fabricant de liqueurs, les chocolats Godiva, bon, très célèbre, une pharmacie.
Oui, c'est pas impossible, parce que je vous disais tout à l'heure que la violette était utilisée en pharmacie. C'était une matière première de base pour soigner certaines maladies du tube digestif.
Vous savez que les Romains la tressaient en couronne contre la migraine aussi.
C'est pas impossible. Les Romains faisaient beaucoup de choses avec leur couronne.
On peut à nouveau essayer. Je crois qu'il va falloir déjà rendre l'antenne à Daniel qui piaffe.
Ah non, je piaffe pas du tout. Mais ce que je voudrais surtout, c'est qu'on donne quand même l'adresse de Jean-François Laporte.
Jean-François Laporte va se charger
pour que nos auditeurs puissent aller.
Eh bien, vous savez, je suis un peu partout. J'ai un peu un don d'ubiquité. Mais si vous souhaitez me rencontrer et avoir des conseils pour la façon de vous parfumer ou sur des produits un peu insolites qui vous intéresseraient et dont vous voudriez découvrir l'existence, eh bien, je suis à votre disposition, 84 bis rue de Grenelle, Paris 7e.
Côté de la SNHF.
Mais il faudrait prendre rendez-vous et je vous donne un téléphone qui est le 01 45 44 61 57. Et je serai tout à fait ravi de vous recevoir.
Alors, on redonne peut-être, Cécilia, le téléphone de Jean-François Laporte.
01 45 44 61 57.
84 bis, rue de Grenelle, Paris.
Jean-François Laporte est un spécialiste aussi des parfums d'intérieur. Il était déjà venu nous en parler ici. Voilà, alors je laisse nos auditeurs rêver à la violette et je leur donne rendez-vous le 14 avril.
Merci, Cécilia. Thank you. Eh bien, cette fois-ci, bonsoir pour de bons auditeurs qui nous rejoignent pour cette deuxième partie, après cette prestation odoriférante de notre amie Cécile Adem, qui recevait ce soir Jean-François Laporte, que connaissent bien nos auditeurs et que j'invite donc encore à mieux connaître en se rendant dans son entreprise qui est sise au 84 bis rue de Grenelle, Paris 7e. Là, il y aura vraiment beaucoup de découvertes à faire. Bonsoir Marie.
Bonsoir Daniel.
J'espère
bonsoir
que vous
à
avez
tous
passé...
les auditeurs.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu votre voix. Hein.
Mais la vôtre non plus, cher Daniel.
Oui, par définition. Ça fait 3 semaines, hein. Pas 15 jours. Au moins.
15 jours.
Ah oui, c'est long. Hein. 15 jours sans les auditeurs, c'est très long. Peut-être pas pour eux, mais pour moi, si. Alors ce soir, nous allons avoir deux sujets principaux autour de deux livres. Le premier est un ouvrage de Jean-Bernard Carreau d'Aspry, qui est un peintre réaliste et également un historien, un écrivain, qui vient nous parler d'un ouvrage qui est paru il y a 2-3 mois à peu près, sur le thème des fleurs de lys et des armes de France, légende, histoire et symbolisme de cette fameuse fleur de lys, publiée aux éditions Atlantica. Et puis nous recevrons également, en deuxième partie de cette émission, le prince Rémy de Bourbon-Parme, qui nous avait déjà fait l'amitié et l'honneur de venir à plusieurs reprises s'entretenir de ses différents ouvrages dans notre émission, qui est accompagné ce soir d'Alexandre Loire, puisque ce sont des co-auteurs, encore vous, il y a 3 auteurs différents, mais ce sont les co-auteurs d'un superbe album publié aux éditions Emdal sur les sacres des rois de France. Donc ce soir, on va rester dans une thématique qui est bien la thématique de l'émission. On se trompe pas, Marie. Mais alors, avant de passer la parole à toutes ces personnes, il faut quand même annoncer un certain nombre de petites choses, parce que nous aussi, on a des annonces à faire. Il n'y a pas que les autres.
Et nous commençons tout d'abord par les rencontres culturelles de Paul Bilaire. Celle du 13 mars aura pour thème Saint-Germain-l'Auxerrois, ancienne église collégiale et royale, son glorieux passé, ses morts illustres, ses œuvres d'art. Le rendez-vous est fixé à 14h45 à l'entrée de l'église, qui se situe 2 places du Louvre, et la station de métro la plus proche est Louvre. Le samedi 20 mars, le thème sera la maison de Victor Hugo, la vie, l'œuvre, la pensée, l'entourage de l'auteur des Contemplations. Le rendez-vous sera fixé à 15h15 à l'entrée de la maison, qui se situe 6 places des Vosges, et les métros les plus proches sont Bastille ou Chemin Vert.
Très bien, ça c'était les nouvelles des rencontres culturelles de Paul Bilaire. Maintenant, je voulais également vous signaler une rencontre intéressante, une soirée intéressante organisée par l'association Enfants du Mékong. Nous avons reçu les animateurs d'Enfants du Mékong à plusieurs reprises, notamment Yves Maudre et Antoine Garcin. C'est une très belle association qui parraine des enfants du sud-est asiatique. Et je trouve que cette association a beaucoup, beaucoup de mérite. Et ils organisent beaucoup de manifestations, notamment une qui se déroulera le samedi 20 mars 1999 à la maison Saint-Grégoire à Rungis. C'est une soirée asiatique. Au programme de la soirée, donc, il y aura de 17h à 18h30 un diaporama, puis une conférence avec Thibaut de Verdier, également la participation d'Antoine Garcin, d'Anne France Boone, et puis le soir à 20h un apéritif. Pour suivre un repas asiatique, et de 21h30 à 22h30, un spectacle auquel seront associés beaucoup de jeunes artistes d'Asie du Sud-Est. Voilà. Alors, je vous donne les 2 téléphones si vous souhaitez assister à cette soirée sympathique. C'est simplement pour aider aussi l'enfance du Sud-Est asiatique. Eh bien, vous pouvez téléphoner soit au 01 45 11 98 88, 01 45 11 98 88, ou également au 01 48 08 72 37. 01 48 08 72 37. Marie.
Renaissance catholique organise le jeudi 18 mars à 20h à bord du bateau-mouche La Galère une conférence donnée par Philippe Chenet intitulée « Le Chili 1970-1990, histoire d'une désinformation ». Le rendez-vous est fixé au métro au pont de l'Alma, au bateau mouche, mais pour tout renseignement, il faut s'adresser à Renaissance catholique et le numéro de téléphone est le 01 46 62 97 04.
Alors, cette conférence, on va redonner le numéro de téléphone, mais elle est soumise à l'étiage de la Seine River, qui, comme chacun a pu le constater, en tout cas pour les Parisiens, est quand même très haute. Là, le zouave du pont de l'Alma, précisément, commence à avoir sérieusement froid aux pieds. Quoi.
Ce n'est pas le zouave, c'est la galère, cette fois-ci.
Non, bien sûr, mais enfin, il y a le zouave aussi au pont de l'Alma, vous savez. Bon. Alors, redonnez le numéro de téléphone quand même.
Pardon,
de l'association.
Oui, 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 alors tout à fait, 01 46 62 97 04.
Voilà, donc c'est jeudi de la semaine prochaine, jeudi 18 mars, à la condition qu'il y ait une petite décrue.
Bien sûr.
Espérons qu'il y aura une décrue. Alors, pour ceux qui n'ont pas envie de se mouiller les pieds, mais d'être bien au chaud, ils ne seront pas sur une galère, mais par contre, il y a une manifestation intéressante organisée par l'association 496, que nous avons déjà aussi reçue, très souvent sur Radio Courtoisie, qui va traiter du dialogue interreligieux. Donc, c'est un thème qui est fort intéressant. Et cette association qu'anime l'abbé Christophe Héry se propose de réunir donc le mardi 16 mars à 19h30 à l'Institut de paléontologie humaine, 1 rue René Panhard, Paris 13e, métro Saint-Marcel. Un certain nombre de personnalités, notamment le père Serge Thomas Bonino, qui est le directeur de la revue Thomiste, le père Michel Lelon, je crois est assez connu de nos éditeurs, qui est spécialiste du dialogue avec l'islam, et l'abbé Guillaume de Tannouarne, qui est directeur de la revue Certitude. Donc trois prêtres de formations différentes, peut-être aussi d'opinions différentes, qui vont discuter, dialoguer entre eux sur le problème et la réalité du dialogue interreligieux. Donc ce sera le mardi 16 mars à 19h30 à l'Institut de paléontologie humaine, 1 rue René Panhard, Paris 13e. Je vous donne un numéro de téléphone si vous souhaitez plus de renseignements. C'est le 01 53 69 00 10 01 53 69 00 10.
Une dédicace de Vladimir Volkov aura lieu le samedi 13 mars de 15h30 à 18h30 à la librairie Guettier. En effet, Vladimir Volkov dédicacera ses deux ouvrages, d'une part Il y a longtemps mon amour et d'autre part Petite histoire de la désinformation. La librairie Guettier se situe au 66 avenue Théophile Gautier, dans le 16e arrondissement de Paris.
Le métro, c'est Église d'Auteuil.
Merci, Damien.
Vraiment, on sort du métro et paf, on a la librairie Gautier, qui est une maison fort sympathique. Et puis également, pour terminer, donc, je parlais tout à l'heure du dialogue interreligieux. Le problème de l'islam, évidemment, se pose aujourd'hui plus qu'hier, risque de se poser encore davantage dans les mois et les années qui viennent. Et l'association France Tradition organise donc le mardi 16 mars à 20h15 au café Le François Copé. Alors là, c'est au métro du Roc. Vous sortez du métro du Roc et paf, vous tombez sur le François Copé. Un débat, exposé-débat sur le problème de l'islamisme qui sera animé par Alexandre Delval et Nicolas Tandler. Alors c'est le mardi 16 mars à 20h15 au café Le François Copé. Le téléphone pour avoir plus de renseignements, c'est le 06 62 40 06 18 06 62 40 06 18. Voilà. Je crois que nous en avons fini avec les petites annonces. Je rappelle quand même que nous sommes sur Radio Courtoisie, que c'est le libre journal de Serge Beckett, enfin la deuxième partie, les fous du roi de Daniel Biche, qui est derrière le micro, et qu'on peut poser des questions par téléphone au 01. Alors encore un téléphone, c'est fou. Hein, mais les gens ont des gros blocs d'ailleurs, tous les auditeurs ont des gros blocs et beaucoup de crayons, parce qu'on donne, je crois que c'est la radio, on donne le plus de numéros de téléphone. Alors le téléphone de Radio Courtoisie, bien sûr, le 01 46 51 00 85, le Bellino c'est 01 46 51 21 82, et puis vous pouvez également poser des questions par Minitel, et également connaître la liste de toutes les personnes présentes, des ouvrages qui sont cités, en composant le Minitel 36 15 libre journal, 2 francs 23 €. La minute. Alors, je passe directement à Jean-Bernard Caroud-Aspry, que sans doute déjà un certain nombre de nos auditeurs connaissent, mais qui est un homme qui bouge beaucoup, donc qui fait qu'il est assez rarement à Paris. Alors, il faut toujours le prendre lors de ses rares passages. Et il vient de publier, de nous offrir un ouvrage fort intéressant qui s'appelle « Des fleurs de lys et des armes de France ». Publié aux éditions Atlantica, qui est une maison d'édition qui est basée, je crois, à Biarritz, et qui sort de fort bons ouvrages. Alors, les fleurs de lys, il y a trois thèmes qu'on va pouvoir aborder avec vous ce soir, puisque c'est même le sous-titre de votre ouvrage, c'est légende, histoire et symbolisme. Alors, c'est une fleur héraldique, c'est-à-dire, en fait, elle n'a pas, semble-t-il, de réalité dans la nature. Et quelles sont les légendes qui tournent autour de la fleur de lys ?
Ben, la légende principale, bien sûr, c'est celle de Clovis, sur comme quoi Clovis aurait reçu les armes de France du ciel. Bon, quels que soient les détails, parce qu'il y a plusieurs, disons, façons de présenter ses armes, et il les a donc qui a lui envoyé l'ordre de gratter ses armes pour mettre à la place des fleurs de lys. Soit c'est un ermite qui a reçu du ciel les fleurs de lys. Et alors il y a toute une symbolique. Elle remplace des crapauds ou elle remplace des croissants. En fait, ce n'est pas gratuit du tout. C'est cette légende qui apparaît au XIIe siècle, à l'époque où apparaît l'héraldique. Mais elle devient quasiment officielle au XIIIe siècle, quand le roi a besoin, pour défendre son intérêt, disons, par propagande contre le roi d'Angleterre, de justifier que ses armes sont d'origine divine. En fait, la symbolique est très intéressante, puisque le fait que les armes viennent du ciel montre que le pouvoir vient de Dieu, bien sûr, et c'est beaucoup plus compliqué que si on renaissait, et à la fois très simple, si on essaie de savoir pourquoi il y a des croissants, pourquoi il y a des crapauds qui sont remplacés par des fleurs de lys. Mmh. En fait, le croissant, c'est un peu comme la lune, c'est un astre qui est éclairé par le ciel, mais qui est en devenir, mmh. Et le crapaud, c'est quelqu'un qui vit dans l'humidité, mais qui ne monte pas, qui ne peut pas s'élever. Et à partir du moment où Clovis est chrétien, il a la possibilité d'avoir la réalisation, la vérité, la lumière, et à ce moment-là, le croissant de lune est remplacé par un symbole lunaire, qui est la fleur de lys, qui est en fait un petit soleil. Tandis que le crapaud, ben, ma foi, il est remplacé par le lys, ou l'iris, ou la fleur des marais, qui s'élève vers le ciel, qui peut s'élever vers le ciel à partir du moment où il a la vérité. Et justement, tout à l'heure, je pensais, quand notre prédécesseur parlait de la fleur, c'est que la fleur de lys, qui ne ressemble pas du tout à une fleur de lys, est pourtant bien une fleur. Et la base du symbolisme de la fleur de lys, c'est une fleur. Et d'abord, le symbole de la fleur en général, qui est un symbole passif. Son calice, c'est comme une coupe qui est un réceptacle de la vie céleste. Saint Jean de la Croix disait qu'elle était l'image des vertus de l'âme. Et alors, bon, vous avez plusieurs solutions. Vous avez le lys blanc, bien entendu. Alors là, c'est le problème, c'est qu'on dit, mais ça ne ressemble pas du tout à un lys. Et pourtant, c'est bien un lys, puisque c'est le même symbolique. On voit, j'ai présenté une image dans mon ouvrage, où on voit la Vierge avec une couronne de lys. C'est une couronne de lys au naturel. De lys des jardins. Mmh. Alors, en fait, à l'origine, c'était un lotus. Et le lotus et le lys, comme le fait remarquer Hervé Pinoteau, a toujours été comparé. On voit sur les sceaux des anciens rois, les rois tenant dans la main un lotus, qui est exactement le même que l'on voit sur des sceptres égyptiens. Ce qui prouve bien qu'il y a une filiation.
L'histoire est très ancienne, parce que le lys n'apparaît pas au XIIe siècle.
Non, le nom de l'histoire de lys apparaît au XIIe siècle. Il apparaît dans Hérec et Enide de Chrétien de Troyes, mais avant, la fleur de lys porte d'autres noms. Mais en fait, l'antiquité de la fleur de lys remonte au moins à l'Égypte. C'est le plus ancienne représentation que l'on a. Et on voit très bien, je l'ai montré, des dessins représentant des sceptres égyptiens et à côté des sceptres royaux qui sont identiques. Mmh.
Donc c'est une histoire très ancienne, enfin, la symbolique du lys est très ancienne.
Ça remonte aux origines, et c'est toujours la même valeur symbolique, c'est la fleur royale. D'ailleurs, les pères de l'Église appellent Basilikonanthos la fleur royale, et elle est toujours associée au pouvoir royal, avec un côté sacré, un côté mystique, qui se retrouvera plus tard, et qui définira en fait la raison pour laquelle Saint Bernard aurait demandé à Louis VII de choisir comme un symbole sur son manteau d'utiliser la fleur de lys plutôt que des lunes et des croissants. C'est lunes, ces croissants et ces soleils que l'on retrouvait dans la légende de Clovis. Et alors, encore autre symbolisme avec la fleur, c'est l'iris. Alors on dit quelquefois, on appelle la fleur de lys un petit iris, effectivement, ça peut vaguement ressembler à un iris, mais c'est parce que l'iris, c'est la messagère. Dans l'Antiquité, c'est la messagère. Et on représente la messagère avec un sceptre, comme les héros d'armes, avec un sceptre, avec une fleur de lys. Et bien, iris, c'est avec tout simplement un iris. Toujours, on retrouve les mêmes valeurs symboliques autour de la fleur de lys.
Alors, je note que dans le titre de votre ouvrage, d'ailleurs, vous écrivez lys, L-I-S, alors que on le voit très souvent écrit L-Y-S.
Alors les deux orthographes sont valables. Le litré le donne comme explication. On peut mettre lys, L-I-S ou L-Y-S. Et maintenant, j'essaie de plus en plus pour favoriser un petit peu, parce que je suis en train de reprendre cet ouvrage, puisque l'on va faire tout un séminaire autour de la fleur de lys et de l'héraldique. Je voudrais essayer de mettre L-Y-S pour la fleur de lys héraldique, parce que quelquefois ça peut supprimer les confusions, mais de toute façon on peut l'écrire d'une façon ou une autre. Il n'y a pas d'anachronisme. Hein. Certains de nos amis à un moment m'avaient fait remarquer que c'était anachronique de marquer L-Y-S, et j'ai dit non, c'est maintenant le litré, les ouvrages sur la littérature le donnent. Alors ça a été anachronique pendant un moment. Et maintenant, c'est revenu. Est-ce que c'est avec la mode du style troubadour? Je ne sais pas. Mais enfin, maintenant, il n'y a pas de problème.
Parce qu'on ne peut pas s'empêcher, quand c'est écrit L-Y-S, c'est-à-dire avec un Y précisément qui doit se prononcer U, je pense, en grec. Je ne suis pas très sûr, mais pas, il me semble. Et ça fait lus, enfin, ça fait lumière. On a le sentiment qu'il y a quelque chose de lumineux.
La fleur de lys, c'est la fleur de lumière.
Oui.
Ça, merci, je n'avais pas remarqué. Et alors que justement, en héraldique anglaise, ça se traduit quelquefois fleur. Ils disent que les Anglais disent quelquefois fleur de lys comme nous.
Oui.
Et ils disent également, ils traduisent par fleur de lumière.
Fleur de lumière. Alors qu'est-ce qui... c'est très curieux parce que la maison capétienne en fait va arborer très tôt ces fleurs de lys, même si la légende pense que depuis Clovis, enfin je pense que c'est une légende qui a été, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, qui est très très postérieure à l'événement, mais qui est là pour signifier quelque chose. Et je crois que la signification est effectivement profonde, ça veut dire que le pouvoir vient de Dieu. C'est clair, parce que c'est l'ange qui apporte la symbolique royale. Mais contrairement à beaucoup d'autres maisons royales ou impériales en Europe, la France, les Capétiens se distinguent par le fait qu'ils arborent en fait des fleurs, alors que plutôt on voit des aigles, des léopards, enfin des tas d'animaux, même assez effrayants, des couleuvres, enfin des tas de choses, et les Français prennent la fleur.
Oui, parce que la royauté française, elle découle, on veut la faire découler tout au moins de la royauté égyptienne, qui elle-même est relevée plus ou moins par la royauté hébraïque. Je vous renvoie au livre, si on le trouve encore, de Jean de Prange, de Le Roi très chrétien. Bon, on peut résumer très rapidement. Après, ça passe par les manteaux byzantins, qui sont à la fois l'héritage de ces symboles égyptiens, qui sont l'héritage des symboles perses. Et là encore, je pourrais renvoyer à l'ouvrage d'Hervé Pinoteau, 25 ans d'études dynastiques, où il montre bien toute cette filiation qu'il ébauche.
Comme on va le recevoir la semaine prochaine, vous pouvez déjà nous donner les akouskis de sa soirée.
Oui. Et alors, ces fleurs de lys, après, elles vont passer sur des manteaux donc byzantins. Or, nos souverains, ne serait-ce que Clovis, son père, ont des contacts fréquents avec les mérovingiens. Il est certain qu'ils reçoivent des vêtements mérovingiens. Et on ne peut pas dire que Clovis a porté un manteau couvert de fleurs de lys, mais on sait qu'il a certainement couvert un manteau couvert de ces petits fleurons. Et on a découvert, on connaît tout au moins des manteaux qui sont couverts de fleurs de lys. J'ai vu l'autre jour sur une gravure, je crois que c'est une impératrice, je ne me souviens plus du nom, je crois que c'est Théodora, qui a un grand manteau. Et je n'avais pas vu sur le coup, parce que le dessin est irrégulier, et on voit très bien une sorte de fleur de lys florencée. Alors, les manteaux viennent, il y a la mode des manteaux byzantins, mais dès les origines, dès les mérovingiens, on voit des couronnes fleurs de lysée, on voit des sceptres fleurs de lysée.
Sur le manteau lui-même, est-ce qu'il n'est pas, la façon dont il est taillé et qu'on peut trouver dans la chasuble primitive, est-ce qu'il ne représente pas la voûte céleste?
Alors,
aussi,
constellée si,
des toiles et de...
Le manteau, c'est un manteau, le manteau du roi est un manteau cosmique, il représente l'univers. Alors justement, les rois auparavant avaient des manteaux qui étaient recouverts de lune, de soleil et de d'astres. À partir de Saint-Bernard... Pinoteau date à 20 ans près, je crois, l'apparition de ces manteaux. Le manteau est couvert de lys. Alors, il semblerait que le roi, c'est un peu ce que disait la légende tout à l'heure, étant devenu chrétien, il permet à son peuple d'accéder à ce grand jardin qui est le paradis. Le paradis est toujours représenté comme un jardin, et qui est un jardin peuplé de lys. Et les lys sont ces fleurs qui remplacent le ciel. Et c'est très amusant, c'est de voir que dans la mythologie grecque, le lys et l'étoile sont comparés. Et ils ont la même origine. C'est Junon, un jour, qui nourrit Héraclès, je ne me souviens plus du nom en grec.
Hera, non c'est pas Hera, non Hera. Hera,
c'est ça. Et qui nourrit, et elle laisse tomber deux gouttes de lait. Une tombe sur la terre et va créer le lys, et l'autre tombe sur le ciel et elle crée la voie lactée. Or, le manteau royal, à quoi ressemble-t-il? À un morceau de sol, du ciel qui est découpé. Et c'est ce jardin peuplé de lys que voulait la Vulgate. C'est cette image du peuple des chrétiens qui se retrouve autour du Christ qui est représenté par un lys.
Alors, dans la symbolique des fleurs de lys et des armes de France, puisque c'est le thème de votre copieux ouvrage, on va dire tout à l'heure le nombre de pages, le prix, etc., et où se le procurer, c'est très important. La composition originelle est quand même ce qu'on appelle un semé de lys. C'est-à-dire qu'en fait, la composition héraldique, c'est beaucoup, beaucoup de fleurs de lys sur un fond d'azur, c'est ça. Puis, tout à coup, on passe d'une multitude de lys à trois lys seulement.
Alors, c'est sous le règne de Charles V que le souverain a décidé que les lys seraient représentés à trois. Mais c'est une décision qui était prise arbitrairement pour bien évoquer la Trinité en l'honneur de la Trinité. Mais auparavant, il y a déjà eu des blasons à trois fleurs de lys. Tout simplement, les graveurs faisaient les fleurs, mettaient le nombre de lys qu'ils pouvaient sur leur petit sceau. Il y a déjà eu des écus à 10 fleurs de lys, à 7 fleurs de lys, à 3 fleurs de lys. Et là, ça devient officiel en l'honneur de la Sainte Trinité. Puisque de toute façon, c'est naturel, puisque la fleur de lys étant l'image du Christ, c'est forcément l'image de la Trinité. Mmh. Alors à partir du moment... Mais c'est comme le symbolisme de la couronne. Au début, la même valeur n'est qu'un simple cercle, et au fur et à mesure, la couronne la plus précise au point de vue de la symbolique royale, et c'est la couronne de Charles X, qui représente la plus héraldique possible. Mmh. Et elle n'arrive qu'au 19e siècle. Au fur et à mesure où l'on perd la quantité, la notion de symbolisme, on a besoin de le préciser. Et d'où toutes ces légendes qui se rajoutent, qui se surajoutent. Bon, quand moi je donne deux légendes, enfin une légende en deux versions, mais il y en a des quantités. Et puis tout le monde se dispute pour donner son petit détail qui a été rajouté, qui a été transformé, qui est adapté.
On parlait tout à l'heure de la violette modeste. La fleur de lys, par contre, est une fleur splendide. Elle est la flos florum, enfin la fleur des fleurs.
C'est la fleur
des fleurs. Elle est à la fois le symbole de... Alors, elle est symbolique aussi. Elle est le symbole de l'innocence, de la suavité,
c'est le symbole de la
blancheur.
Ce qui est amusant, c'est que c'est à la fois le symbole de la fécondité et en même temps le symbole de la chasteté. Oui. Mais ça, c'est propre au symbole. C'est d'avoir des sens différents. C'est fonction de la connaissance qu'on en a de ce symbole. Vous demandez à quelqu'un dans la rue quoi ressemble qu'est-ce que c'est pour vous une fleur de lys? Alors, la plupart des gens vont vous dire, c'est le symbole de ma province, c'est le symbole des royalistes, ceux qui sont un petit peu plus, qui ont un peu plus une notion. Les autres vous diront, c'est le symbole du Québec, quelques-uns, c'est les armes de la Bosnie-Herzégovine. Mais personne ne pense au symbole, rentre dans le symbole. Et pourquoi les rois ont-ils choisi, la question que vous posiez tout à l'heure, une fleur de lys? Plus on a la connaissance du symbole, plus on lui découvre. Des relations avec.
Et des
symboles qui paraissent différents et en fait qui reviennent tous vers la même chose, symbole du pouvoir royal et du pouvoir sacré qui est ce pouvoir qui vient de Dieu. Et toujours, on est amené à revenir. On parle des crapauds, on parle de tout ce qui a trait aux armes de France, on est toujours ramené comme un faisceau vers un axe.
Est-ce que ce ne serait pas au fond le vrai symbole de la France, la fleur de lys?
C'est indéniable. C'est pas parce qu'on ne le porte plus. Vous êtes levé que la France est le seul pays au monde qui ne porte pas de blason.
Oui, oui.
Quand Clémenceau voulait faire porter un coq d'or sur fond d'azur, bien sûr, il n'a pas obtenu gain de cause. Mais
le coq, c'est l'animal qui chante quand il a les pieds dans le fumier, c'est ça?
Ah, je ne sais pas.
Bien, merci beaucoup, Jean-Bernard Cardaspi. Peut-être deux questions de Marie.
Oui, Daniel. Enfin, deux questions d'auditeurs plutôt. Que nous sommes sur Radio Courtoisie. Et que les auditeurs peuvent nous joindre au numéro de téléphone 01 46 51 00 85 ou par télécopie au 01 46 51 21 82.
Alors, rapidement.
Alors, tout d'abord, une auditrice nous demande d'avoir la gentillesse de redonner le rendez-vous de Paul Bilaire pour le samedi 13 mars. Alors, le rendez-vous est fixé à 14h45 à l'entrée de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Ensuite, un auditeur Est-il possible de savoir pourquoi sur le blason de la Bosnie musulmane il y a des fleurs de lys?
Ça c'est un peu compliqué, mais vous allez expliquer
ça. Non, c'est très
ça,
simple. C'est parce que la Bosnie-Herzégovine a repris les armes de la maison d'Anjou. C'est les armes de Philippe de Tarente avec les armes mal ordonnées. C'est pas un semis de fleurs de lys sur fond d'azur. C'est des armes, je sais pas comment on peut les décrire, parce que les fleurs de lys sont mis n'importe comment. Mais autrement, ils relèvent les armes de ces Capétiens qui ont régné sur la Bosnie-Herzégovine autrefois.
Bah ouais, c'est quand même intéressant de constater ça.
Il y a deux pays, qui portent encore des fleurs de lys, bien sûr.
L'Espagne.
Il y a l'Espagne, et il y a le Canada.
Le Canada, le Québec.
Le Canada. Il y a
le
un
Canada.
Quartier qui porte des armes d'azur à trois fleurs de lys. Et puis, bien sûr, le Québec, c'est sur le drapeau.
Ouais.
C'est pas sur les armoires.
Encore une question, un auditeur, dans le film Charlemagne, il y a eu une espèce de téléfilm qui a été projeté à la télévision il y a quelques années. On voyait un drapeau royal fleur-de-lysée, on pourrait bien dire impérial dans le cas de Charlemagne. Est-ce que c'était même pas anachronique?
Ah, si, c'est tout à fait anachronisme, puisque le drapeau apparaît au XIIe siècle. Le drapeau, les armoiries, apparaissent au XIIe siècle. Il semblerait que la première fois que l'on voit le drapeau fleur-de-lysée, l'étendard fleur-de-lysée, ou la bannière plutôt fleur-de-lysée, Et c'est au moment du grand rassemblement qui a eu lieu à Paray-le-Monial pour le départ de la croisade. On parle, mais est-ce que le texte est d'époque? On ne sait pas trop. Enfin bon, manifestement, c'est pas avant le XIIe siècle, de toute façon.
Merci Jean-Bernard Caudaspry. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Des fleurs de lys et des armes de France, légende, histoire et symbolisme, édition Atlantica. On trouve cela facilement en librairie? Parce que la maison d'édition Atlantica commence à être un peu connue.
Il se vend très bien.
Alors, où est-ce qu'on peut le trouver à Paris, par exemple?
Je sais qu'on peut le trouver à la librairie Séguier, entre autres, puisque vous avez parlé de la librairie Séguier. J'espère que nous aurons le plaisir d'y aller ensemble.
À la librairie Gaîtier.
Gaîtier. Oui, Séguier, c'est mon éditeur.
Porte d'Auteuil.
Non, Séguier, c'est l'éditeur, c'est le deuxième nom d'Atlantica.
Combien coûte l'ouvrage?
Il fait 119 francs.
Bon, c'est pas très cher et c'est un livre que je trouve fort intéressant. En tout cas, c'est déjà une bonne propédeutique pour aller encore de façon plus approfondie dans cette symbolique exceptionnelle qui est celle de la fleur de lys.
Et qui est indispensable, mais vous avez remarqué à qui il est dédié?
Alors, vous allez me le dire.
Eh bien, à Monseigneur le Duc d'Anjou.
Ah, alors c'est très bien. Alors là, donc c'est parfait. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Merci beaucoup, Jean-Bernard Caudaspry. Alors, on va continuer à parler de lys d'ailleurs, hein, puisque Monseigneur le Prince Rémy de Montbompard me fait l'amitié d'être présent ce soir avec. Son compère avec lequel il a travaillé pour mettre au point ce très très bel album publié par les éditions Imdal. Il faut dire que c'est une maison d'édition quand même qui se distingue par la qualité de ses produits, notamment de ses albums. Nous avions déjà reçu pour un très bel album sur les cisterciens, où là vous donniez toute la mesure de vos connaissances architecturales, puisque l'art cistercien c'est aussi l'architecture. Un très bel ouvrage. Et là, vous passez dans un autre domaine, qui est le domaine plus de l'histoire, et même d'une histoire particulière, qui est l'histoire des sacres des rois de France. Alors, à part le fait que vous êtes Bourbon, Monseigneur, qu'est-ce qui vous a induit à travailler sur cette question?
Tout d'abord, mon éditeur, puisqu'il estimait, je ne sais pas si c'était à tort ou à raison, que j'étais peut-être apte à traiter de ce sujet. Et puis évidemment l'intérêt pour cette question, parce que je crois qu'on ne connaît pas assez le sacre et toute la symbolique du sacre, et comment se passait le sacre et comment on est arrivé à la cérémonie du sacre. Enfin, c'est toute une histoire qui doit se raconter depuis longtemps. Tout à l'heure on parlait de la symbolique du lys, et je crois qu'on est en plein dans le sujet. Le sacre est rempli depuis le début de la cérémonie jusqu'à la fin de la cérémonie. Et même avant, puisqu'il y a une route du sacre qu'on va parcourir pour aller jusqu'à Reims, qui est remplie d'un symbolisme de tous les instants. Et je crois que c'était une partie fort intéressante du sujet, non seulement de décrire les lieux du sacre, les cheminements du sacre, mais aussi de s'attacher très particulièrement à la cérémonie qui est tout à fait passionnante dans ses implications et dans son symbolisme.
Alors précisément, c'est le mot même de sacre, qui est un mot déjà qui est un petit peu atypique dans le monde monarchique occidental après la chute de l'Empire romain, puisque c'est la seule monarchie sacrée, un peu sacrale. Ailleurs, on assiste à des couronnements très souvent, à des cérémonies de couronnement, mais en France, ça prend quand même une dimension un peu particulière. Peut-être en Angleterre aussi, mais je me demande si les Anglais n'ont pas copié le sacre des Français.
Oui, il est certain que le sacre en Angleterre s'est inspiré des sacres en France. Le sacre est une cérémonie très ancienne. Le sacre en France, en tout cas, est une cérémonie très ancienne et qui est restée de tradition jusqu'à Charles X, puisque vous savez bien que le dernier sacre officiel est celui de Charles X. On ne considère pas généralement que c'est le sacre, le dernier vrai sacre. Le dernier vrai sacre serait celui de Louis XVI.
Parce que nous avons dans les monarchies très 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 antiques, et notamment en Israël, il y a effectivement, dans la période des rois, il y a une sacralité du pouvoir, et donc une onction c'est Samuel qui le premier, je crois, donne l'onction au roi. Alors là j'ai le trou, c'est le trou épouvantable. Saül ou Paul, qui donne l'onction, et on a l'impression que la monarchie française va aussi, on l'a vu tout à l'heure, la symbolique avec la couronne, avec les fleurs du Lys, qu'elle va aussi s'inspirer de cette monarchie sacrale des Hébreux pour l'acclimater. Et c'est ainsi que, dans les textes de l'époque, on voit donc que la France est la tribu de Juda, du nouvel Israël, qui est l'Église entière, en fin de compte. Alors, le sacre, ce sont des cérémonies, c'est une route d'abord. Bon, c'est une route. Est-ce que l'un de vous peut nous parler un peu de la route? Qui est-ce qui a le plus travaillé sur la route?
J'ai travaillé sur la route, mais je laisserai la parole à Alexandre qui a fait toute la longue partie sur le symbolisme et sur la cérémonie du sacre elle-même.
Surtout qu'Alexandre vient de très loin aussi, parce que là, il était encore en déplacement professionnel aujourd'hui, et qu'exceptionnellement, il est rentré par un avion, et Deo Gracias, les avions ont volé aujourd'hui. Mais il en va aussi de même pour Jean-Bernard Corot-Daspry, je pense que vous êtes arrivé aussi en avion. Vous auriez pu vous croiser à l'aéroport.
J'ai eu pire que l'avion, j'ai pris le taxi.
Ah oui, alors ça c'est beaucoup plus aujourd'hui, c'est l'abomination.
Si en avion, ça roulait mieux.
Voilà, c'est l'abomination de la désolation.
Oui, donc, la route des sacres, elle partait... Elle est partie, dans les derniers temps, elle est partie de Versailles, mais autrefois, elle partait de Paris. Et la première étape, elle se déroulait en quelques jours. C'est-à-dire que la première étape était d'Amartin en Goëlle. Le roi s'arrêtait le soir après son départ de Paris ou de Versailles. Il passait la nuit là-bas, puis il s'est rendu ensuite à Villers-Cotterêts. Une nouvelle fois, il passait la nuit à Villers-Cotterêts. Et enfin, à Soissons. À Soissons, en général, en tout cas pour Louis XV, Louis XV restait deux nuits à Soissons, puisque c'est un évêché important, et ensuite il quittait Soissons et il se rendait pour son avant-dernière étape qui était Fismes. Fismes qui est une ville qui était relativement proche de Reims, Fismes qui fit une grande fête à Louis XV parce que les habitants de Fismes attendaient le passage du cortège royal depuis 60 ans.
Et il n'y avait pas eu de sacre depuis 60 ans.
Il n'y avait pas eu de sacre depuis 60 ans. Donc après Fismes, le cortège royal se dirigeait vers Reims, et puis il arrivait à Reims et la cérémonie, enfin les prémices de la cérémonie pouvaient commencer. Et là, je crois que je vais laisser la parole à Alexandre qui va prendre la suite.
Voilà, comment se déroule la cérémonie du sacre d'un roi de France? D'après ce qu'on peut savoir, parce que peut-être pour des sacres très, très anciens, on ne sait pas, mais en tout cas, on est très au courant pour les sacres de Louis XVI, de Louis XV, etc.
On a quand même un certain nombre d'informations sur des sacres plus anciens, notamment au XVe siècle, avec le magnifique recueil qui a été fait à la suite du sacre Charles V, et qui est d'ailleurs parti en Angleterre et qui est aujourd'hui dans la collection du British Museum. Mais en fait, donc le
rituel... On va faire comme Mélina Mercouri, on va demander qu'ils nous rendent ce qu'ils nous ont donné. Oh bah quoi, écoutez,
il y a
pas de raison. Hein.
Choses, hein. Il y a aussi de nombreuses parts du mobilier de Versailles aussi qui sont en Angleterre.
Ils l'ont peut-être acheté, remarquez.
Ils l'ont acheté, oui, c'est vrai. Donc en fait, la cérémonie se déroulait sur plusieurs jours. Elle commençait avec l'entrée du roi à Reims, l'entrée solennelle. Et puis tout de suite après, donc les vêpres de la veille du sacre. Qui a été l'occasion, notamment pendant les derniers sacres, d'homélies fameuses qui étaient des enseignements au roi. Et en fait, ce qui est important, enfin, ce qui m'a semblé important dans toute la cérémonie dans son ensemble, c'est d'essayer d'aborder le rituel et les objets qui étaient remis au roi sous l'angle de cette cérémonie est entièrement un enseignement dispensé non seulement au prince pour qu'il apprenne. Il prenne bien conscience déjà de l'origine de son pouvoir, et ensuite qu'il soit bien conscient des droits et des devoirs qu'il engage en recevant l'onction. Et je pense aussi qu'il devait y avoir une contrepartie à cet enseignement qui était destiné au peuple, au royaume, tous ordres confondus, pour eux aussi leur faire bien comprendre quels étaient leurs droits et leurs devoirs envers le souverain. Et toute la cérémonie va se passer pour la plus grande partie, donc le jour du sacre, pour culminer au moment de l'élévation sur le trône, où là le roi est physiquement placé sur un jubé, sur son trône.
On trouve parfois dans les descriptions le mot échafaud.
Et même échafaud, c'est assez troublant d'ailleurs. C'est par ça que commencent les récits d'organisation des cérémonies. Et donc où on a l'impression que pendant la cérémonie, on va reconstruire toute la pyramide sociale qui s'était un peu affaissée, en tout cas avec la mort du roi précédent. Donc
parce que le roi est la clé de voûte de tout le système.
Le roi est la clé de voûte de tout le système. Et l'hommage, donc, après l'intronisation, va reconstruire cette pyramide où, depuis l'archevêque de Reims, les pères du royaume et puis les grands officiers de la couronne, etc., tout le monde va prêter serment au roi qui est enfin assis en majesté, couronné, oint et assis sur son trône. Donc, l'avant-veille de la cérémonie du sacre, donc il y a cet accueil avec ses vêpres dans la cathédrale. Le lendemain, dans la nuit qui précède le sacre, la tradition veut que le roi passe la nuit jeûne et passe la nuit en prière dans la cathédrale pour rejoindre au petit matin une chambre de parade dans laquelle il est étendu sur un lit. Et là, les pères religieux délèguent deux d'entre eux pour venir le chercher, le réveiller symboliquement et venir physiquement le lever de son lit pour réveiller le roi qui s'était endormi à la mort du sacre du roi précédent. Une fois que le roi est amené dans la cathédrale, a lieu l'accueil de la Sainte Ampoule, qui elle a été extraite du tombeau de Saint-Rémy à l'abbaye de Saint-Rémy et qui a été accompagnée par les moines de l'abbaye, portée autour du cou par le prieur de l'abbaye, qui vient la remettre à l'archevêque de Reims en demandant en échange un serment faisant que l'archevêque de Reims s'engage à rendre cette ampoule à l'abbaye après l'onction, après le couronnement. Et je crois que justement on parlait des fleurs de lys, du lien avec Clovis, et l'ampoule est un lien supplémentaire à l'histoire de Clovis, puisque la tradition l'a fait remonter au moment même du baptême de Clovis, et son apparition miraculeuse dans le bec d'une colombe qui la porte dans la main de Saint-Rémy au moment de l'onction.
Les cris de Noël, 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 qui est le cri d'acclamation, donc évidemment, à part les vivats très excellents, oui. Mais enfin, tout le monde crie Noël. Et ce Noël, évidemment, on se dit pourquoi il crie Noël, c'est quand même curieux, parce que tous les sacres de roi ne se passent pas Noël. Par contre, le baptême de Clovis, lui, est supposé s'être déroulé un jour de Noël. Donc,
exactement.
On rétablit ainsi une très très longue chaîne des temps.
Oui, de même que le voyage dont parlait Monseigneur tout à l'heure, qui est effectivement un voyage initiatique depuis la capitale fondée par Clovis jusqu'à la cathédrale qui a été élevée sur le lieu de son baptême.
Son baptême, exactement.
Donc, une fois que le roi a...
Il semble qu'on ait trouvé d'ailleurs les traces parce qu'il y a eu des fouilles faites avant justement le 1500e anniversaire, et une équipe d'architectes, d'archéologues ont semble-t-il découvert les vestiges sous la cathédrale du baptistère de Clovis. C'est une chose quand même très troublante.
On n'est pas encore tout à fait certain que ce soit le baptistère, mais voilà. Il y a de bonnes chances en tout cas.
C'est quand même extraordinaire de toucher 15 siècles d'histoire comme ça du regard. Enfin, moi, je n'ai vu que des photographies, évidemment, mais c'est quand même très, très émouvant. Marie, vous avez un message auditeur ?
Oui, l'auditrice. Oui. Il y avait une très belle évocation d'un sacre du dauphin dans Jeanne d'Arc, La Pucelle. Oui. Très long film magnifique en deux parties avec Sandrine Bonnaire, sorti il y a quelques années.
Oui, je reconnais, c'est un très beau film qui, malheureusement, n'a peut-être pas bénéficié de moyens financiers qui permettent... de reconstituer quand même des événements qui, sans doute, avaient quand même fait converger beaucoup de monde. Donc les choses sont un petit peu symbolisées, mais bon, on s'y fait très bien. En tout cas, c'est très digne, c'est un film très, très digne.
Je voudrais ajouter qu'il y a un autre film en préparation, justement, sur Jeanne d'Arc, dont il est question, il s'agit de Besson qui prépare un film, Et paraît-il, il se serait entouré de gens sérieux,
oui,
pour reconstituer le sacre de Charles VII, justement, avec la plus grande rigueur.
Alors, je peux aussi vous annoncer, monsieur, qu'il y a un autre film qui a dû être tourné cet été. C'est un Américain, là, maintenant, j'ai gardé le synopsis quelque part à mon bureau, mais où, je ne sais pas, sous des piles de dossiers. En tout cas, j'avais vu le chargé de relations publiques, et c'est un Américain qui a tourné
film. Je crois que ce film a été abandonné.
Ça a été abandonné
à cause de la dualité avec Besson.
Avec Besson, oui, c'est assez difficile de lutter avec Besson. Très difficile. Enfin, nous verrons quand ce film sortira.
Une auditrice, merci à Daniel Amiche pour ses émissions. Et là, je ne sais pas si c'est un auditeur ou une auditrice. Un grand merci à monsieur Daniel Amiche pour son émission sur la royauté. Et que vive notre futur roi Louis XX, duc d'Anjou, Louis de Bourbon.
Bon, bah, ça c'est très bien, merci beaucoup. J'adore qu'on caresse, dans le sens du roi, s'il vous plaît. Alors, il nous reste encore 6 minutes. Et je voulais quand même attirer l'attention des auditeurs sur l'iconographie de cet album, puisqu'il s'agit d'un album avec une très très riche iconographie, des images absolument superbes, des tableaux, des miniatures, des reconstitutions architecturales, des tapisseries. C'est tout à fait... comment vous avez pu prendre un temps fou pour faire retrouver toute cette masse documentaire, monseigneur?
Oui, je n'ai personnellement pas fait ces recherches, mais la maison d'édition a une historienne qui est attachée à elle et qui s'occupe de l'iconographie et qui a fait des choix
très beau travail,
judicieux, parfois sous nos indications et sous à notre demande, mais elle a pu trouver tous les documents, ce qui n'est vraiment pas évident, et trouver les maisons qui puissent nous fournir ces documents.
C'est tout à fait superbe. Alors, je suis en train de feuilleter le livre, puisque il y a un petit tableau qui est très amusant, qui va enchanter notre ami Jean-Baptiste Cahour-Daspry, qui est en fait l'évolution du dessin de la fleur de lys. Voilà. Donc, c'est à la page 51, sur le lys héraldique, d'ailleurs que vous orthographiez avec un I et pas avec un Y, je note. On voit l'évolution de la fleur de lys. C'est très intéressant de le voir, parce que ça permet, par exemple, quand on a des documents sous les yeux, de savoir à peu près à quelle époque, de quelle époque ce document est, parce qu'on savait près par rapport au dessin.
C'est très fluctuant, hein. C'est en fonction des artistes, il n'y a pas vraiment on sait que bien sûr ça c'est plutôt 18e,
oui,
et que ça c'est plutôt médiéval, mais vous avez des fleurs de lys sur des documents anciens, vous croyez qu'elles sont modernes, et vice-versa.
En fait, elles sont anciennes.
Oui. Mais je voudrais vous dire quelque chose à propos de Noël.
Oui.
Noël, tout à l'heure, vous avez lancé cet appel. Eh bien, Noël, qu'est-ce que veut dire Noël? C'est le nouveau soleil.
Oui, Noël,
et en se convertissant, qu'est-ce qu'on dit à Clovis? Qu'il a amené la nouvelle lumière. Donc,
Alors, nous, Noël, c'est Néo-Hélios, non? C'est pas,
Nouvel Hélios,
c'est ça, ça, c'est ça, le nouveau soleil. Donc, en fait, c'est le solstice, c'est là où c'est le moment où...
Et la légende dit qu'il a amené, en se convertissant, la légende, et les textes, les lettres de l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce type qui a écrit un texte extraordinaire, et il lui dit qu'il a apporté le nouveau soleil en amenant la nouvelle religion.
Donc, est-ce qu'on peut, en deux minutes, pour conclure, monseigneur, vous-même ou Alexandre Loire, parler de ce qui se passait à l'issue du sac, c'est que le roi devenait un roi thaumaturge, c'est-à-dire qu'il soignait. Enfin, il soignait peut-être pas n'importe quoi, mais en tout cas, il soignait, et c'est quand même attesté. Il y a eu beaucoup de...
Oui, il était de tradition que le roi, après la cérémonie, aille toucher des écrouelles, procéder au toucher des écrouelles. C'est une maladie, je crois qu'il s'appelle une adénite tuberculeuse, oui, dans les termes médicaux, et qui consiste à une excroissance des ganglions, je crois, quelque chose comme ça. Et donc le roi allait toucher les tuberculeux, ces malades. Et Louis XIV, je crois, a touché quelque chose comme 2000 malades. Charles X, un peu moins, je crois que c'était aux alentours de 120. Et on a pu constater des guérisons. On a pu constater des guérisons. Et comme dans tout ce genre d'événements à Lourdes, si on constate des guérisons, elles ne sont pas en quantité, mais elles existent. Donc le roi, on considérait que le roi de France était le roi de France, pas seulement le roi de France, puisqu'il y a eu des exemples en Angleterre, je crois que c'était Édouard Ier d'Angleterre, ou non, Édouard II d'Angleterre, et puis aussi le fils de Guillaume le Conquérant qui avait procédé au toucher des écrouelles.
Oh, mais il était normand, le fils de Guillaume le Conquérant, pouvait. Ça, c'est normal, il apportait du continent les bonnes choses.
Ouais. mais le premier roi guérisseur est quand même un roi capétien, puisque c'est Robert le Pieux Oui. Qui le premier a été attesté comme ayant des dons de thaumaturgie.
Merci beaucoup, Monseigneur. Merci, Alexandre Loire. Merci à vous aussi, Jean-Bernard Cœur-en-Esprit. Alors, je rappelle que cet ouvrage de Rémy de Bonbon-Parme et d'Alexandre Loire, ainsi que Georges Bernage, qui est le directeur des éditions MDAL, est publié sous la forme d'un très bel album aux éditions MDAL. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de pages. Ça fait 130 ou 140 pages. C'est un très bel album. Cartonné, enfin parfait, et ça vaut 198 francs, et je pense qu'on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies.
Oui, absolument, il est distribué à la FNAC, et voilà, vous toutes le trouvez, les bonnes librairies.
Bonnes librairies, voilà, bon, même si la FNAC m'en fait passant, mais voilà. Alors écoutez, je vous remercie beaucoup, Monseigneur, d'avoir fait l'effort de venir ce soir, parce que je sais que vous avez des difficultés, parce qu'il y a des encombrements absolument dans toute la ville. Merci à vous aussi, Jean-Bernard Cœur-en-Esprit, et vous, Alexandre Loire, d'être venu de si loin pour nous rejoindre. Merci aux auditeurs. Je leur dis à la semaine prochaine, et d'ici là, bien sûr, que Dieu nous garde.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, dirigé successivement par Serge de Bekech, assisté de Victoria, et par Daniel Amiche, assisté de Marie. Du 10 mars 1999, diffusé dimanche 28 décembre 2014, dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.